BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission qui s'occupe de votre argent au quotidien. Aujourd'hui, on va parler investissement locatif, on va parler matières premières et puis on zoomera sur le secteur du luxe. C'est dans quelques minutes, mais avant ça, c'est l'heure du journal.
BFM Business, l'info éco, Stéphanie Collo.
Et le coup près tombe aujourd'hui sur la dette française. Moody's et Fitch se prononcent ce soir sur la note de la France, alors que le gouvernement doit faire face à un dérapage des comptes publics. Les agences s'inquiètent du montant de la dette qui dépasse les 3 000 milliards d'euros, au-delà de 110% du PIB. Et une baisse de notation n'est pas à prendre à la légère, selon David Go, partner et CEO de B Durand Capital.
Les agences de notation ont toujours la même importance parce qu'en fait, dans une majorité de fonds institutionnels, donc les sociétés d'asset management, les fonds souverains, on organise encore énormément les screenings en fait et les revues de, et les sélections d'obligations par ces notations. Et donc lorsque vous chutez d'une catégorie, il y a des tas de gérants de fonds, de portefeuilles qui ne peuvent plus théoriquement venir acheter ou devront acheter moins de vos obligations parce que finalement le risque est considéré comme plus élevé et donc le coût en capital est plus important pour pouvoir acheter l'équivalent.
Le moral des ménages se dégrade en avril. Ils sont plus nombreux à estimer qu'il est plus opportun d'épargner et aussi plus pessimiste quant aux perspectives d'évolution de leur niveau de vie dans les 12 prochains mois. Et puis les créations d'entreprises poursuivent leur baisse. Leur nombre recule d'1,9% au mois de mars, après déjà une baisse de 0,6% en février. L'allemand ThyssenKrupp annonce la vente de 20% de ses activités sidérurgiques au groupe de Daniel Kretinsky et discute pour l'acquisition de 30% supplémentaire du capital. Les deux groupes envisagent par ailleurs la création d'une co-entreprise dans l'acier. Dans le secteur minier, l'anglo-américaine rejette l'offre de rachat de son rival BHP, la jugeant trop faible et peu attractive. Une opération à près de 39 milliards de dollars qui aurait donné naissance à la plus grande société de cuivre au monde avec 10% de la production mondiale. Le cuivre d'ailleurs qui dépasse les 10 000 dollars la tonne sur les marchés pour la première fois depuis 2 ans. Encore beaucoup de résultats d'entreprise. Ce matin, Total Energy améliore encore son bénéfice de 3% au premier trimestre à 5,7 milliards de dollars. C'est grâce à des prix du pétrole et des marges de raffinage soutenues et malgré le recul des prix sur le marché du gaz. Safran confirme ses objectifs pour cette année. L'équipementier aéronautique publie un chiffre d'affaires en hausse de 18% au premier trimestre à 6,2 milliards d'euros, tiré par les activités de service pour ses moteurs civils qui nécessitent davantage de pièces de rechange et d'entretien avec la hausse du trafic aérien. Et justement, ADP enregistre un chiffre d'affaires en hausse de près de 11% à 1,3 milliard d'euros au premier trimestre. C'est au-dessus des attentes portées par la bonne performance de ses activités commerciales à Paris. Le trafic global progresse de 11% avec 77 millions de passagers. Enfin, aux États-Unis, Microsoft fait mieux que prévu. Au premier trimestre, le bénéfice net ressort en hausse de 20% à près de 22 milliards de dollars tirés par le cloud, dont l'activité bondit de 26%. La branche pèse désormais 43% des revenus de Microsoft. Et puis des résultats supérieurs aux attentes aussi du côté d'Alphabet. La maison mère de Google réalise un chiffre d'affaires de plus de 80 milliards de dollars au premier trimestre et dégage 23,7 milliards de bénéfices nets portés par la publicité, le cloud et l'IA. Lorraine.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à tous, vous êtes dans l'émission qui vous aide à devenir au quotidien meilleur investisseur. Nous sommes en direct à la radio, à la télé, sur le web, tous les jours de 10h à midi sur BFM Business. On est aussi en podcast. Bonjour à vous qui nous écoutez à une autre heure du jour ou bien de la nuit. Nous sommes le vendredi 26 avril. Au programme de cette émission, le bilan. On va faire le bilan des publications de la semaine. Qui sont les gagnants ? Réponse avec François Monnier, le directeur de la rédaction rédaction du magazine Investir et Mounir Laghoun de la fintech Finari. On zoomera en particulier sur le secteur du luxe. Il y a un trou d'air de croissance dans ce secteur et au premier semestre, on peut dire que les États-Unis qui étaient porteurs, eh bien, ne le sont plus et la Chine déçoit par-dessus le marché. Quels sont les enseignements à tirer pour nos portefeuilles d'investisseurs particuliers? L'analyse d'Alexandre Ezez de chez Richelieu. Côté bourse, Antoine Depieux, Euronext en fil rouge dans la première partie de l'émission et nos deux traders pour suivre la séance du jour. Ce sera le match des traders vers 10h15. À 10h30, votre dose d'économie quotidienne avec Nicolas Dose. Les agences de notation vont-elles dégrader notre note? Le problème, nous dira Nicolas, ça n'est pas d'être dégradé, c'est d'être dans une pente descendante de manière structurelle. On vous coach aujourd'hui, on parlera de votre épargne retraite et de vos impôts. Vous avez un PER, un PEE, un PERCO. Que faut-il déclarer aux impôts et comment? Les bons conseils de l'équipe d'Epsor. Et puis on fera le point sur les matières premières, pétrole, cuivre et argent notamment. Benjamin Louvet d'Ophi Invest AM va nous expliquer pourquoi la tonne de cuivre à 12 000 $, eh bien c'est possible. Au programme, il y a vous. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous écouter. Merci pour votre soutien. Merci pour vos messages. Hier, Guillaume et Olivier ont été très sensibles à la féminisation de notre émission. Merci pour cette réflexion. Les visions féminines, visiblement, apportent beaucoup d'humanité au métier de CGP. C'est ce que m'écrivait Guillaume hier. Nous allons répondre à vos questions, ou en tout cas alimenter notre émission avec vos réactions. Vous nous écrivez, l'adresse est direct à bfmbusiness.fr ou bien en message privé sur LinkedIn, Lorraine Goumeau. Je vous lis. Il est l'heure de rejoindre Antoine à Euronext.
BFM Business, c'est aussi sur Internet. Sur bfmbusiness.com, suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay. Votre rendez-vous avec eToro, plateforme de trading et d'investissement. Les traders intelligents choisissent les meilleurs outils.
Antoine, on vous retrouve à Euronext avec encore un peu du manque d'énergie ce matin. Il nous faudrait un peu de vitamines. On était bien parti, mais là, le rebond manque de jus. On est tout juste au-dessus des 8000 points.
Bah oui, on a toujours du mal à arbitrer les résultats d'entreprise. Alors c'est assez curieux, on en reparlera tout à l'heure, mais on a l'impression que ça se fait en plusieurs jours. C'est-à-dire que globalement, on a une réaction épidermique le jour de la publication des résultats, à la hausse ou à la baisse. Puis au fur et à mesure de la semaine, bah, on se dit, non, on va peut-être revenir là-dessus, c'est peut-être intéressant. Et du coup, on a des mouvements d'un peu plus long terme. Donc au milieu de tout ça, le CAC 40, lui, il gagne 0,32%, on est à 8042 points. Évidemment, la tech en principal stimulateur des marchés après les résultats extrêmement convaincant de la part de Microsoft et de Google. On a un Euronext Tech Leaders d'ailleurs qui gagne 1,3%. Le DAX à Francfort plus 0,6, c'est même score pour l'Eurostock 50. Alors, super idée les matières premières parce que mine de rien, et sans qu'on s'y attende, bah, sont les principales vedettes de ce début de séance. Déjà parce que le pétrole, encore une fois, au milieu des résultats, on a tendance à perdre un peu de vue les fondamentaux de marché. Le pétrole remonte. 88,15 $ pour le baril de Brent de mer du Nord. Et alors, les meilleures performances du CAC 40 et du SBF 120, là, en ce moment, sont signées par des compagnies liées aux matières premières. Saint-Gobain, plus 6%, 74,64 €. Et oui, les trimestriels ont été publiés hier soir après la clôture. Et franchement, ils sont très, très convaincants. Et alors, que dire de la hausse de 11,9% d'Eramet, qui est à 88,75 €, qui promet un retour au profit et qui a relevé l'ensemble de ses prévisions financières malgré quand même des difficultés. Sur le premier trimestre, le groupe se montre beaucoup plus confiant. Du côté des autres valeurs, tiens, ArcelorMittal qui gagne quasiment 2% à 24 €. Là aussi, on est bien lié aux matières premières. Des dossiers qui ont été un petit peu arbitrés de manière embrouillée tout au long de la semaine. Kering qui remonte de 2%, 333,90 €. En revanche, on a des sanctions avec les résultats d'Airbus. Le titre perd 2,38% à 154,74 €. On a Safran qui est arbitré à la baisse aussi après ses publications. Moins 1%, on est à 205,40 €. Eurofin Scientifique qui a souffert toute la semaine puis qui continue. Moins 1,8% à 56,44 €. La plus forte baisse du SBF 120, elle est pour Alten aussi avec les chiffres trimestriels qui ont été publiés. Ils sont pas bons et les investisseurs l'arbitrent à la baisse. Moins 6,2%, 120,90 €. Le CAC plus 0,37. On est à 8046 points. L'euro, 1,0737 $. Lorraine.
Merci beaucoup, Antoine. On vous retrouve dans quelques minutes dans le cadre de notre débat. Vous nous parlerez des plaques d'urticaire. des traders en ce moment. Ce serait sérieux. Vous nous rejoignez dans le talk dans quelques minutes. Restez connectés, Antoine. À tout de suite. Nous allons faire le point sur les actualités que vous avez besoin de maîtriser en ce vendredi matin. C'est François Monnier aux manettes du journal. Tout de suite.
Tout pour investir, le journal de votre argent.
Le directeur de la rédaction du magazine Investir est avec nous. Bonjour, cher François.
Bonjour, Lorraine.
Évidemment, avec vous, on fait le bilan ce vendredi matin de près de 50% des entreprises de notre CAC 40 qui ont publié. Que retenez-vous? Racontez-nous.
Oui, on a déjà maintenant une bonne visibilité sur l'état de santé de nos entreprises, que ce soit cette semaine avec un peu plus de la moitié qui ont publié, 21 exactement, et on avait déjà eu quelques publications au cours des semaines précédentes. Là, ce qui ressort, bien sûr, c'est qu'on est extrêmement rassuré, même s'il y a un petit peu moins de croissance, les sociétés sont capables toujours d'afficher une activité solide, elles sont capables de défendre les marges, et ça se mesure finalement avec des indices qui restent quand même à des niveaux assez élevés, puisque le CAC 40 reste au-dessus du fameux seuil symbolique des 8000 points. Donc très bonne résistance, des prévisions qui sont également là aussi rassurantes, ce qui fait dire que le deuxième trimestre pourrait être là aussi de bon augure. Donc encore une fois, les entreprises parviennent à surprendre agréablement la communauté financière, les analystes, les gérants. Donc ça, c'est la note positive. Après, là, ce qu'on voit, et c'est ce qu'on a pu voir depuis deux ou trois trimestres, c'est que maintenant, il y a clairement des vraies fractures au sein de chaque secteur, au sein de chaque thématique. On l'a vu dans le luxe, entre un Kering qui s'écroule et un LVMH qui continue de progresser. On le voit aussi dans le domaine de la santé, Eurofins scientifique, Sartorius Stedim, ne sont toujours pas remis finalement du Covid, et on a une petite remontée de Sanofi. On le voit aussi dans le domaine de la tech. Si Meta souffre, on voit que Microsoft rassure et on voit qu'il y a de l'appétit en tout cas pour des actions Alphabet. Donc on voit vraiment que dans chaque secteur, que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis, vraiment il y a un vrai tri et on ne joue pas maintenant une thématique, on ne joue pas un secteur, on joue vraiment la bonne valeur. C'est vraiment une stratégie de ce qu'on appelle le stock picking dans le jargon des gérants, et on le voit même au sein des thématiques. Dans les thématiques liées, on va dire, en valeur value pas chère, défensive, finalement, on a des investisseurs qui vont plutôt sur la banque et qui vendent des télécoms. On a vu qu'Orange a subi des prises de bénéfices. Donc, on voit que vraiment, à tout niveau, on essaie de faire le tri. Et c'est ça qu'il faut vraiment retenir. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas se dire on a une conviction sur un secteur. Il faut vraiment y aller valeur par valeur.
En stock picking, on va continuer à faire le bilan de cette semaine de publication. On reviendra sur Kering dans quelques minutes avec Mounir Laghoun. Mais avant ça, un petit mot de Bitcoin. Parce que depuis le halving, là, on n'en parle plus du tout. Ça fait une semaine.
On n'en parle plus parce que finalement, on a pas mal d'épargnants ou d'investisseurs. Je ne sais pas comment on peut les appeler. En tout cas, il y a quand même un Français sur 8 qui a du Bitcoin ou de la crypto-monnaie. Et ces épargnants sont un petit peu déçus parce que tout le monde se disait avec le halving, donc le fait qu'on allait produire deux fois moins de Bitcoin, on allait avoir une envolée des cours. Sauf que l'envolée des cours, on l'a eu un petit peu, et il faut voir un petit peu quels sont les catalyseurs aujourd'hui sur la crypto-monnaie et sur le Bitcoin. Tous les voyants sont au vert, sauf un. Les voyants qui sont au vert, c'est que la crypto-monnaie et le Bitcoin arrivent à créer de la valeur lorsqu'il y a une défiance sur le système.
Oui.
La défiance est toujours là, on voit les endettements, on voit la dette publique en France, 3100 milliards, on se dit, oui, il y a quand même un souci. Donc ça, c'est un terreau extrêmement favorable au Bitcoin. Autre terreau qui est favorable, le fait qu'on puisse en acheter plus facilement. Depuis l'arrivée des ETF aux États-Unis et bientôt à Londres, il est plus facile de se procurer de la crypto-monnaie sans se créer un wallet, un portefeuille digital. Ça, c'est et puis maintenant, le système crée de la rareté puisque le Bitcoin, comme vous le savez, à intervalles réguliers, réduit sa production de monnaie numérique par deux. C'était le cas le 21 avril. Et là, on se dit, finalement, ça monte. Pourquoi ça monte pas? Ça monte pas parce que la donne, c'est le dernier voyant, il n'est pas du tout au vert, il est peut-être à l'orange, il va peut-être passer au rouge. C'est le fait qu'il n'y a pas de baisse des taux attendue de la Banque Centrale Américaine en juin.
Mmh.
Et il y a une vraie corrélation entre les taux d'intérêt, notamment aux États-Unis, et les cours du Bitcoin. Quand les taux d'intérêt ont eu tendance à monter, quand la Banque Centrale a durci sa politique monétaire, on a vu qu'il y avait une pression baissière sur le Bitcoin.
Oui.
Et tout le monde s'est dit, maintenant on rentre dans une nouvelle stratégie de politique monétaire avec des baisses de taux attendues. Tout de suite, ça a donné une bouffée d'oxygène depuis cet automne sur le Bitcoin. Et là, on se dit finalement, l'inflation, elle est toujours là. Elle montre vraiment des signes de résistance. Et le combat, il risque de durer un peu plus longtemps. Et donc, résultat, les cours du Bitcoin soit en mode pause et tout le monde attend la baisse des taux de la Fed.
Voilà, quel avenir si la Fed ne baisse pas ses taux? En tout cas, à l'heure où on se parle, 10h15 ce matin, le Bitcoin se négocie autour de 64 389 dollars. Le Bitcoin et les publications, nous allons en reparler dans quelques minutes avec Mounir Lagoun de Finari et puis Antoine Larigaudry depuis Euronext. Merci François, restez avec nous, on passe une tête chez nos traders pour faire le point sur cette semaine et puis sur la sale journée sur les marchés hier.
Tout pour investir, le match des traders.
Ce matin, Jean-Louis Cussac est avec nous, Perceval Finance Conseil, pour finir la semaine. Le lundi et le vendredi, c'est Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis. Nous sommes Bonjour. Également avec Dorian Abadi de Meilleurs Taux. Dorian, on va démarrer avec vous si vous voulez bien. On a vécu une sale journée sur les marchés hier. Il y a pas mal de publications, tant au niveau macro qu'entreprise. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Quels sont les niveaux techniques que vous allez surveiller et que vous pouvez partager avec nos auditeurs, Dorian?
Oui, bonjour à tous. Ben, effectivement, c'est une séance importante qui commence. Alors, on a surtout les résistances un peu symboliques autour des 8100, 8150 points et par extension les 8220 points qui pourraient être testés à nouveau. Alors, dans les prochaines heures, surtout les prochaines séances en début de semaine prochaine. Au niveau des supports, en cas de prise de bénéfices, et puis tout simplement, c'est vrai qu'on a beaucoup de détachements de dividendes en ce moment, ce sont à nouveau des niveaux assez symboliques que l'on surveille, notamment sur les 8000 points. Il faut se dire que, sur la semaine, malgré toutes les secousses qu'il y a eu, on est globalement sur un petit gain hebdomadaire de 0,25%. Le CAC n'est finalement qu'à 2,5% de son record historique. Donc on reste sur des niveaux assez élevés. Et surtout, voilà, c'est une séance cruciale qui clôture un petit peu cette semaine avec l'examen de la dette française par les agences internationales. Et puis on aura surtout les deux grands leviers boursiers du moment avec l'inflation américaine d'un côté à 14h30, à quelques jours de la prochaine réunion de la Fed, mardi et mercredi. Et puis de l'autre côté, ce sera autour de plusieurs majors pétrolières de passer sur le grill des résultats. Côté américain, on a surtout Chevron et Exxon et côté français Total, bien sûr, pour représenter voilà, le secteur pétrolier français.
Jean-Louis, vous allez suivre attentivement les mêmes publications et comment vous allez conclure cette semaine ?
D'une manière plutôt positive, parce que en achetant systématiquement, on finit par retrouver ses prix. Non, mais je dis ça un peu par provocation, mais les achats d'hier, éventuellement un peu trop rapides, il a fallu patienter un petit peu, mais on a fini par remonter. Et ce matin, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti point haut, c'est-à-dire on a fait ce matin les objectifs qu'on avait de rebond d'hier, d'une manière un peu incroyable. Ensuite, le marché a baissé, et il a baissé, et il a encore baissé. On se disait, mais qu'est-ce qui se passe? 60 points de baisse, ça prouve quoi? Qu'il y a beaucoup d'effets boutonniers, que tout simplement, aux États-Unis, il y a des bonnes nouvelles sur deux sociétés. Tout d'un coup, le SP500 prend 40-50 points. Derrière, on suit de loin, mais on suit sans conviction. On décale des prix, et là, ce matin, il y a énormément, évidemment, de réactions. Mais vous l'avez déjà signalé, aux résultats de société. Mmh. Alors, il y a du bon, il y a du moins bon. Alors, quand c'est décevant, avant c'était moins 3, maintenant c'est moins 9. Quand c'est pas bon, au lieu de moins 9, maintenant c'est moins 30. Bon, ça fait un bout de temps que ça dure. Donc voilà, on a toujours des surinterprétations. On a des marchés qui vraiment sont... tout le monde va dans le même sens au même moment. On reste acheteur sur des replis. Tant qu'on est au-dessus de 7815 futurs mai, on continue. C'est la période des dividendes. Donc faites attention, le cash, comme aujourd'hui, L'Oréal impacte le cash de 6,6 à peu près. Donc les baisses ou les mouvements sont un peu amputés de ces distributions de dividendes. La prochaine, ça sera donc lundi prochain, et on y reviendra d'ici là, puisque je serai avec vous. Mais faites attention à ça, voilà. Et 7815, c'est le point à surveiller sur le futur. Il y a 43 points d'écart entre le futur et le cash.
Merci beaucoup, Jean-Louis. On fera le point lundi avec vous, Jean-Louis. Cher Dorian, merci pour votre agenda. Est-ce que vous allez surveiller cette séquence? C'est à retrouver comme l'ensemble de nos séquences sur notre plateforme, bfmbusiness.fr. Je vous précise que la journée a débuté avec la confiance des consommateurs. En France, plus tard, aux États-Unis, nous aurons l'inflation PCE, le revenu personnel et la consommation des ménages, ce sera vers 14h30. Et puis, le sentiment de l'Université du Michigan, vers 16h, ce sera à suivre, évidemment, avec l'équipe BFM Bourse, Guillaume Sommerer, Julie Cohen et toute l'équipe du site BFM Bourse en direct sur notre antenne. Nous allons continuer à discuter des actualités qui vous concernent en tant qu'investisseur particulier avec l'équipe du vendredi.
Tout pour investir, tout pour votre argent.
Le directeur de la rédaction d'Investir est toujours parmi nous. Rebonjour, cher François.
Rebonjour.
Nous sommes rejoints, ça fait un bail, par Mounir Laghoun. Bonjour Mounir.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes le cofondateur de Finari et Antoine Larigaudry depuis Euronext. Toujours connecté parce que nous allons continuer le bilan des publications de la semaine. Antoine, on va démarrer avec vous. Vous êtes assez positif, vous nous dites des super chiffres dans l'ensemble, mais, confirmation quand même d'une certaine stagnation des chiffres d'affaires et des perspectives pas florissantes, notamment sur les secteurs normalement de croissance. Racontez-nous.
Oui, bah c'est un peu le syndrome Pitous. Hein. J'avais découvert ça avec Alain Pitous la dernière fois qu'il était venu et qu'on avait discuté. Il y a quand même une tendance qui se dégage. C'est vrai qu'on a des sociétés qui sont au top de leur rentabilité. On a encore BNP Paribas, rien qu'hier, qui signe des profits records sur un trimestre. On a des entreprises qui sont très bien structurées, qui dégagent un maximum de profits, donc dont la structure est vraiment faite pour faire de la croissance en bourse. Maintenant, il y a quelque chose qui pose un véritable problème, c'est la stagnation des chiffres d'affaires, voire même leur recul dans certains cas. Et certains secteurs où il va falloir se faire un marché extrêmement volatile et dont les tendances vont devoir s'affirmer dans les mois à venir avant de prendre une véritable vitesse de croisière. Et j'en veux pour preuve quand même les perspectives du côté d'ST Micro, parce qu'on se dit comme ça, là, à la va-vite, semi-conducteur, mais c'est de la croissance à ne plus savoir qu'en faire pour les années à venir. Ben oui, mais il y a des chaos de marché, il y a des secteurs qui se grippent, l'automobile hein, du côté de chez ST Micro qui s'en plaint un petit peu. Alors on a des chiffres de qualité, mais du coup des perspectives sans doute un petit peu prudentes. C'est passé un peu à l'as hier aussi avec les performances mirobolantes de Microsoft, de Google, de Snap même, qui ont étonné. Mais alors on a eu des résultats pour le coup vraiment décevants de la part d'Intel. Liés aussi, il faut bien le dire, quand un secteur commence à stagner ou quand on a besoin véritablement de dynamiser notre activité sur un secteur en particulier, ben qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire des dépenses. Il faut faire des dépenses de marketing, il faut faire des dépenses commerciales. Ça s'appelle CAPEX. CAPEX. Vous vous souvenez, c'est ce qui avait véritablement mis le feu aux poudres concernant les résultats de Meta. Meta qui a besoin d'énormément investir du côté de l'intelligence artificielle et ça rogne sur sa trésorerie et sur un certain nombre d'autres paramètres comptables. Et ce mot CAPEX, ben, il commence à mettre des boutons effectivement aux traders américains, vous me le disiez tout à l'heure en jouant les dermatos, mais oui, ça met de l'urticaire parce que dans cette période d'incertitude au niveau des taux, au niveau des dynamiques de croissance dans certains secteurs et des perspectives de croissance qu'on estimait totalement infinies encore il y a quelques mois, on n'avait qu'à regarder la progression d'NVIDIA, c'était absolument spectaculaire. Ben oui, ça ne va pas se faire sans mal. Et effectivement, il y a des ajustements à prévoir sur les cours de bourse des sociétés concernées. Donc, dans l'ensemble, ça reste quand même des performances spectaculaires. Mais en demi-teinte, si on regarde un petit peu plus loin dans l'avenir, en tout cas.
François, Intel perdait 8% hier hors séance après ses comptes. Au contraire, Alphabet flambait de 11%. Alphabet, d'ailleurs, qui versait un dividende. On n'en a pas parlé depuis le début de l'émission.
Exactement. Alphabet qui distribue des dividendes, qui rachète des actions. Mais c'est vrai que la bourse, en fait, elle aime les capex, pour rebondir sur ce que vient de dire Antoine, mais elle aime les capex qui sont argumentés et qui peuvent générer des gains. Les investissements massifs de Meta, c'est vrai, ont fait dérailler le titre hier, mais parce que Meta nous a déjà joué le coup avec « je vais investir énormément dans le métaverse ».
Oui.
On n'a pas vu de retour sur investissement. Et là, il nous dit « je vais investir maintenant massivement dans l'IA ». Donc évidemment, ça jette un petit peu le trouble, alors que Amazon et Jeff Bezos a un discours totalement opposé à celui de Mark Zuckerberg, qui est de dire, bah, moi, j'ai pas été rentable pendant 20 ans, mais regardez comment je construis mon empire.
Oui.
Et là, les investisseurs ont été capables de patienter pendant 20 ans. Donc la bourse peut être très patiente, mais il faut quand même qu'il y ait quelques arguments chiffrés. Donc il faut, voilà, tout ça, ça appelle un petit peu de raison. Après, ce qu'on voit, c'est que c'est rassurant, mais le marché respire. Et puis surtout, il faut faire attention quand on a des investisseurs qui ont des méga convictions. La méga conviction que la voiture électrique, ça allait être tout de suite maintenant, ben évidemment, on voit qu'il y a un véritable trou d'air. Il se vend, enfin, les ventes ont été mauvaises chez Tesla, sont mauvaises aussi chez Volkswagen. On voit que, voilà, une voiture électrique, d'accord, mais il faut du pouvoir d'achat. Les consommateurs n'ont pas forcément le pouvoir d'achat. Il y a une concurrence qui s'intensifie. Donc, tracer sous une fiche Excel, voilà, la croissance, elle est garantie régulière, c'est jamais le cas. Il y aura des à-coups aussi dans le domaine de l'IA. Là, on est tout feu, tout flamme sur l'IA, mais on voit que de temps en temps, bah, voilà, Nvidia, c'est un titre aussi qui a besoin de respirer. Donc, on est sur des marchés en croissance, mais ça se fait jamais en ligne droite. Et donc, mais il y a toujours des opportunités. On l'a vu dans la transition énergétique. Les Saint-Gobain, c'est deux fois centenaire, fait une croissance de 6% de son cours de bourse ce matin. Donc, comme une valeur tech américaine. Donc, on voit que la transition Schneider Electric a rassuré également. Donc, voilà, il y a des secteurs qui sont toujours porteurs. Mais voilà, ça tourne, il y a une rotation et c'est tout à fait normal.
Vous nous parliez du retour du stock picking, François. Mounir, est-ce que vous avez des convictions sur des secteurs ou vous fonctionnez aussi en stock picking?
Alors moi, je fais très peu de stock picking. Je pense que la règle qui est bien de se donner, c'est qu'on fait 80% de passifs et 20% de stock picking pour quand même un peu s'amuser. Et là, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le marché, finalement, c'est un instrument qui donne un prix, mais c'est pas pour autant qu'il faut aller écouter, comme l'appelait Warren Buffett, Mr. Market, il faut aller le prendre. Donc Alphabet, que ça monte, que ça baisse, ça reste quand même un business incroyable qui, depuis 20 ans, délivre une performance. On appelle, enfin, les détracteurs de Google parlent de six blue links, en gros, six liens, c'est ça le business malgré tout, mais ils se sont tellement transformés. Je pense que Meta aussi a quand même montré, avec quand même à sa tête le fondateur, c'est quand même assez étonnant. C'est la personne qui a monté l'entreprise dans sa chambre à Harvard qui mène encore la bataille. Alors je pense qu'il s'est bien raté sur le métaverse, mais je pense qu'il ne se rattrape pas sur l'IA. Donc que les prix montent ou baissent, finalement, peu importe, ce qui compte, c'est les fondamentaux. Et moi, j'aime bien avoir du CAPEX parce qu'en fait, ça me rassure. Une entreprise qui distribue du dividende ou qui rachète ses actions, finalement, c'est qu'elle ne sait pas quoi en faire. Une entreprise qui investit comme Amazon, eh ben, elle crée un champion national, continental et puis international.
Facebook, création en 2024. Facebook va avoir 20 ans, ce qui ne nous rajeunit pas. La parole des fondateurs n'est pas toujours d'or. On a l'impression que la parole d'Elon Musk, elle a un petit côté Midas. Quand il parle, il arrive à retourner les esprits. Quand on entend Mark Zuckerberg qui justifie son CAPEX et ses investissements dans l'IA, le marché doute plus. Ce rôle des fondateurs, peut-être pour conclure cette discussion, dans la gouvernance et dans l'impulsion qu'ils peuvent donner à leur entreprise, dans le chantier qui est la transition IA. François, comment vous la regardez?
C'est vrai qu'Elon Musk, c'est un excellent orateur et surtout il a le sens du timing. Là, en ce moment, le vrai sujet, c'est il a quand même un titre qui a perdu près de 40% depuis le début de l'année. Des interrogations sur le fait qu'il est obligé de baisser des prix et ça bouleverse tout le modèle économique. Et là, il raconte une nouvelle histoire, une nouvelle equity story qui est plus de dire je vais essayer de vendre plus de voitures électriques à un meilleur prix dans telle ou telle zone. Il raconte maintenant la nouvelle histoire, c'est la voiture autonome avec des taxis. Et ça, parce qu'il a analysé des milliers, des milliards de données et maintenant, il estime qu'il va pouvoir être au point. Il ne donne pas de date extrêmement précise et le nombre de véhicules qu'il va pouvoir commercialiser de façon autonome, mais c'est une nouvelle histoire. Et c'est vrai qu'il a derrière, ce qu'on regarde, c'est son track record, son historique. Oui, il a été capable de lancer des fusées. Oui, il est arrivé à bouleverser le monde de l'automobile alors qu'on disait que ce n'était pas possible, notamment aux États-Unis où vous avez General Motors, Ford et Chrysler. Et lui, il arrive, il casse tout, il a réussi. Et là, on se dit, si jamais il réussit la voiture autonome et il explique que ce sera finalement comme prendre un ascenseur, eh bien là, on se dit, oui, c'est à nouveau une disruption. Est-ce qu'il va être capable? En tout cas, oralement, il met beaucoup de l'énergie et il arrive à persuader quand même pas mal d'investisseurs.
Mounir, le mot de la fin, peut-être sur l'état d'esprit dans lequel nous, investisseurs particuliers, nous devons être dans cette semaine de publication, cette période de publication.
Je pense qu'il faut être aux aguets. Si on fait du stock picking, clairement, c'est maintenant que ça va se passer. Si on est investisseur passif, peu importe, on continue d'investir régulièrement. Et pour revenir sur ce que disait François, je pense que c'est extrêmement important d'investir effectivement dans des fondamentaux solides, mais aussi dans un leader, enfin une femme ou un homme qui a vraiment une vision. Et on ne peut pas reprocher à Elon Musk de ne pas avoir de vision. Il s'est quand même bien raté. Il nous a dit qu'à un moment, il voulait faire des tunnels. Il y a un tunnel qui existe dans le monde. Et en plus, il y a des embouteillages dans son tunnel. Donc, c'était quand même assez drôle de voir ça. Il a aussi complètement raté son achat de Twitter, qui est devenu X, qui est vraiment un bourbier absolu. Mais en parallèle, comme l'a dit François, il a révolutionné une industrie. Il a créé un constructeur automobile de rien. On disait que c'était impossible. Il l'a fait. Et je pense que si vous aviez été actionnaire de Tesla il y a 5 ans, vous êtes très content, même avec la forte baisse qu'il y a aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il va réussir à rebondir ? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a une capacité à convaincre les investisseurs qui est fabuleuse, et il sait raconter des belles histoires, et de temps en temps, elles se réalisent, et quand ça marche, bah, ça se vérifie en bourse.
The Loop, le tunnel douteux, absurde d'Elon Musk, voilà. Exactement. Comment il s'appelait. Antoine, le dernier mot pour vous, on parle de vision et d'entrepreneurs qui arrivent à raconter des equity stories ou des stories tout court. Nous allons parler avec vous à 11h de Jack Dorsey, le vrai fondateur de X, enfin X Twitter pardon originellement, qui est le nouveau parrain de l'industrie crypto et qui veut défier Nvidia. En deux, trois mots là, racontez-nous le résumé de votre histoire.
En gros, il est en train de vouloir réduire la Nvidia dépendance de l'industrie crypto, parce qu'on en parle beaucoup en tant qu'artisan et machine-outil de l'intelligence artificielle, ces fameuses cartes graphiques Nvidia. Ben, c'est aussi la cheville ouvrière de toute l'industrie crypto. Et là, Jack Dorsey, en fait, via sa société Block, qui est spécialisée dans le paiement et dans la technologie blockchain, veut créer du hardware, à savoir des systèmes de semi-conducteurs, des architectures de semi-conducteurs spécialisées dans le minage. Et oui, je vous en dirai plus, c'est assez passionnant cette histoire.
Block, B-L-C-K. À tout à l'heure, Antoine. Merci beaucoup, François Monnier. Qu'est-ce qu'on lit à la Une d'Investir ?
Eh ben, on fait un grand bilan, bien sûr, des publications. On analyse, bien sûr, toutes ces entreprises. Et puis, bien sûr, nous, on va aux assemblées générales. Donc, on raconte ce qui se passe lorsque les patrons prennent la parole et échangent avec leurs actionnaires.
La vision et la parole des patrons sur Finari. Une vidéo à retrouver sur YouTube ou un contenu Mounir dont on peut parler pour conclure.
Écoutez, je viens de recevoir Romain Burnand, qui est le fondateur de Moneta. Il gère 4 milliards d'euros. Et il affiche une performance de 14,9% par an depuis 20 ans sur son fonds Moneta Microcap. Alors, j'ai pas de part dans le fonds, mais ça reste une discussion passionnante puisqu'on est vraiment allé dans le portefeuille. Il nous a expliqué pourquoi il achetait certaines valeurs et pourquoi il en vendait d'autres. Et Romain aussi dit que lui, quand ça commence à applaudir, généralement, il vend parce qu'il sent que le vent va tourner.
Voilà, à retrouver sur Finari, les experts du vendredi pour décrypter les actus. Ça continue juste après la pub. Nicolas Dose sera là pour nous parler de notre note, la note française. Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter de cette note ou plutôt de la tendance, la descente dans laquelle nous sommes? À tout de suite, et à tout de suite Antoine aussi, qui continuera à être avec nous dans Tout pour investir. Antoine Arrigoré, Euronext.
Tout pour investir, dose d'économie.
L'élève France appelé au tableau. Bonjour Nicolas Dose.
Bonjour.
Verdict ce soir.
C'était pas mal comme titre, je trouvais pas le bon titre. Là, l'élève France appelé au tableau, c'est pas mal.
Verdict ce soir, après la clôture de la bourse, vous le savez, deux des trois grandes agences de notation vont trancher sur la note souveraine de notre beau pays. Le risque de la dégradation de cette note est-il réel selon vous, cher Nicolas ?
Ah oui, il est bien réel le risque. Il est bien réel parce que la dégradation de nos finances publiques, elle est franche. Et elle est brutale. Il n'y a pas de règle. Enfin, normalement, traditionnellement, quand vous avez un ratio de dette sur PIB qui s'est dégradé de plus de 10 points entre la précédente dégradation et le moment où l'on parle, vous avez de grandes chances d'être dégradé. Il se trouve que 2019-2023, notre ratio de dette sur PIB, il ne s'est pas dégradé de 10 points, mais de 13 points. Mais bon, il n'y a pas de règle, ok ? Maintenant, oui, le risque est réel. Pourquoi ? Le déficit public est nettement supérieur à ce qui était prévu en 2023. Nettement, hein ? On est parti de 4,9 prévu, on arrive à 5,5. La croissance est nettement plus faible que ce qui était espéré cette année en 2024. On est parti à 1,4, on a ramené à 1, et le 1 est encore largement au-dessus des prévisions globales de l'ensemble des instituts qui sont plutôt autour de 0,7%. Elle est réelle parce que notre dette, effectivement, dépasse 110% du PIB. Il y a un pays d'Europe qui fait pire que nous, qui s'appelle l'Italie. On a souvent tendance à se comparer à l'Allemagne. Vous prenez l'Allemagne, la France. Nous, on est en train d'aller vers le haut, ou en tout cas d'avoir du mal à baisser. L'Allemagne se rapproche des fameux 60% inscrits dans les traités historiques. Donc, jamais l'écart entre la France et les bons élèves de l'Europe n'a été aussi important. Que des choses qui sont des révisions de déficit aussi fortes, des révisions de croissance aussi fortes, c'est rare. Un écart qui se creuse entre les frugaux et les non-frugaux, c'est rare aussi. Et après, l'annonce d'un décret à 10 milliards. Plus 10 milliards supplémentaires qui viennent et qui n'étaient pas attendus. Ça montre bien qu'effectivement, il y a une forme d'urgence, il y a une forme de dégradation brutale, je le disais, et probablement un sentiment d'urgence qui s'est emparé de Bercy. Jamais, hein, on a vu, à peine l'hiver terminé, 20 milliards de coupes budgétaires qui tombent du ciel comme ça. Alors, Gabriel Attal dit « Regardez comme on est sérieux ». Moi, je dis « Regardez comme ça flippe à Bercy ». On a chacun sa lecture. Donc oui, effectivement, le risque est réel de dégradation.
Nicolas, est-ce que vous pouvez nous rappeler le principe de ces agences de notation?
C'est important de rappeler qu'effectivement, tous les 6 mois, les agences vont donner leur avis sur la solvabilité d'un État, la note de dette souveraine, la capacité de l'État à rembourser sa dette. Un point très important, autant les agences de notation, quand elles notent des établissements, enfin des entreprises, elles sont rémunérées pour le faire, elles ne sont pas rémunérées pour se prononcer sur les États. Et donc, elles délient. Il y a deux critères. Il y a la note, entre 20 et 22, 23 notes par grille. Elles n'ont pas toutes exactement la même grille de notes, mais c'est une grosse vingtaine de notes. Et puis, il y a la recommandation, la perspective qui accompagne la note, qui peut être stable, qui peut être négative ou qui peut être positive. Si vous voulez, dit très simplement, les agences de notation sont un peu aux États ce que le guide Michelin est à la restauration. Et donc, ce soir, deux des trois, Fitch et Moody's, vont se prononcer. Le 31 mai, on aura l'avis de celle qui est la plus écoutée. C'est Standard & Poor's.
Standard réponse la plus écoutée. Écoutez, bon, très concrètement, mettons-nous du point de vue du business, de la vraie économie. Qu'est-ce qui va se passer très concrètement si la France, eh bien, a sa note souveraine dégradée? Est-ce que c'est grave?
Dans les jours qui viennent, même les mois qui viennent, il ne va absolument rien se passer. On n'aura aucun problème particulier pour placer notre dette et on ne va pas vivre une explosion totale des taux d'emprunt. S'il devait y avoir une explosion totale des taux d'emprunt de la France, des taux souverains, on aurait déjà commencé à l'avoir. On n'a pas du tout vu un écart s'installer entre l'OAT française et le Bund allemand. En fait, qu'est-ce qui se passe? La France aujourd'hui, elle est notée 17-18 sur 20. Si on est dégradé, on sera noté 16 sur 20. Ça reste quand même le club des pays les plus sûrs. Le problème de l'histoire, c'est que le mouvement de déclin, il est engagé maintenant depuis 2012, quand on perd le triple A, mais il est inexorablement orienté vers le bas. On n'a aucune perspective de moyen terme, même de long terme, qui nous permettrait d'imaginer qu'on verrait cette note révisée à la hausse, contrairement à ce que la Grèce a vécu. Je rentre un tout petit peu dans le détail. J'ai regardé chez Moody's. Vous avez 4 niveaux très bons. Le triple A, ok. Derrière le triple A, vous avez 3 notes. A1, enfin double A1, double A2, double A3. Maintenant, on est double A2. Donc, on est au 3e niveau des 4 niveaux des bons élèves. Ensuite, vous avez 3 niveaux où vous êtes acceptable. Ça va. C'est les niveaux des 3 échelons commençant par une seule lettre A et pas un double A. Puis après, vous rentrez dans la catégorie des notes B. Ah, c'est là où ça se gâte un peu. Et puis, si vous arrivez dans la catégorie des notes C, là, ça sent le sapin. Et là, c'est pareil, vous avez plusieurs C, puis quand vous avez la note C tout seul, un gros C, ça s'appelle le défaut. Alors évidemment, on n'en est absolument pas là. Mais encore une fois, chaque dégradation, c'est toujours vers le bas. Et on n'a absolument aucune perspective pour que les choses s'inversent. 2024, on signe notre 50e budget dans le rouge. 50 ans. Et on a des présidents de la République qui ont tous promis la réforme de l'État, et aucun qui ne l'a engagé, et aucun qui ne l'a mené. Donc voilà, on a une dette souveraine qui ne reprendra pas de sitôt le chemin du double A1, voire du triple A. Et on est vraiment dans l'histoire du gars qui tombe du 20e étage et qui, au 16e étage, se dit, pour l'instant, tout va bien.
50 ans dans le rouge. Voilà le problème, Nicolas, on vous entend. C'est pas d'avoir une note dégradée, c'est d'être dans la pente descendante depuis toutes ces années.
Bon, après, il y a la question d'image et les conséquences politiques qui existent aussi en cas de dégradation. Je me demandais si on serait dégradé, je pensais pas trop. Et puis ce matin, tous mes invités autour de la table ont pensé que si.
Bon, à voir lundi.
Ben, ce soir.
Bilan lundi, ouais, avec vous, et ce soir, évidemment, pour ceux et celles qui s'informeront sans vous. Merci, Nicolas. Cette séquence sera retrouvée en podcast et en replay, vous le savez, sur notre site et l'application BFM Business, mais également sur YouTube. Vous participez également à la discussion sur la chaîne YouTube de BFM Business. À suivre, on continue à s'occuper de votre portefeuille. On va zoomer sur le secteur du luxe et se demander concrètement quels enseignements tirer pour nos portefeuilles à nous, d'investisseurs particuliers. Bonjour Alexandre Aizé, vous êtes le Chief Investment Officer chez Richelieu avec nous ce matin pour parler résultats bien sûr, mais pour zoomer en particulier sur un secteur qui nous est cher, qui pèse lourd sur notre cote, dans notre bourse nationale, nous allons zoomer sur le luxe. On va revenir sur les fondamentaux du secteur et puis se demander pour nous investisseurs particuliers, comment est-ce que fait le luxe? nous concerne très directement. Alors d'abord, peut-être votre sentiment par rapport aux dernières publications. Est-ce qu'il faut retenir pour ceux et celles qui nous écoutent ?
Alors c'est vrai que dans les dernières publications, on voit clairement qu'il y a un ralentissement global des dépenses, hein, avec des États-Unis qui fonctionnaient très très bien, avec évidemment un consommateur qui était très résilient. Et puis là, on commence à voir en Europe un peu de mieux, et en Asie, alors là, c'est assez contrasté au niveau des fondamentaux. Et ce qui est très important quand on regarde le secteur du luxe, en fait, c'est un secteur qui est très très hétérogène. Et ce que on a eu quasiment la plupart des entreprises qui ont publié, hein, il manque Richemont en Suisse, mais on a eu quand même pas mal de déceptions sur des grands noms, hein, et des grands noms de la cote, hein, évidemment, ça nous intéresse parce que dans le CAC 40, c'est des vrais poids et c'est pas forcément des entreprises qui sont liées à l'économie française, hein, donc c'est vraiment un peu comme à l'image de ce que l'on a sur la technologie aux États-Unis. Et c'est vrai qu'on a des sociétés qui ont fortement déçu, hein, comme Kering, notamment sur sa marque Gucci en Asie. LVMH a été beaucoup plus morose, et puis vous avez certaines stars, Hermès, qui a plus de 18% de croissance séquentielle, avec une dynamique sur les prix qui a montré une très très forte accélération. Et donc, avec ce paysage-là, ce que on s'aperçoit quoi ? On s'aperçoit que vraiment les très grandes marques, les marques premium, c'est-à-dire que le luxe est en train encore de se luxifier, où vous avez des capacités d'augmentation de prix qui sont presque inconnues, comme Hermès ou d'une certaine manière Moncler. Eh bien là, vous avez une capacité encore à faire de la croissance, même si l'économie est de plus en plus morose.
On a beaucoup parlé d'Hermès évidemment cette semaine. C'est vrai que le pricing power d'entreprises et de marques comme Moncler, Prada, mais aussi Bruno Cucinelli, si je prononce ça correctement, est impressionnant. On n'en parle pas autant qu'Hermès. Évidemment, ces groupes n'ont pas l'envergure d'Hermès, mais vous, en tant qu'investisseur, vous regardez ça de près.
On regarde ça de près parce que les marques de luxe ont effectivement surperformé la cote pendant plusieurs années, dans une économie qui était post-Covid en forte croissance, avec énormément d'épargne qui se déversait sur la consommation. Là, on est un peu près on est quand même dans une situation bien différente. L'inflation est encore là, donc il faut regarder les entreprises qui ont ce fameux pricing power et cette capacité à maintenir, voire à augmenter les marges. Et en même temps, la consommation n'est plus ce qu'elle l'était. On voit très bien ce qui est en train de se passer au niveau macroéconomique. Donc il faut vraiment se focaliser sur des marques qui ont cette capacité forte à engranger, effectivement, à recréer de la dynamique de prix.
On a beaucoup déploré les résultats de Kering plombés, ancrés par les difficultés de Gucci. Mais à l'intérieur de Kering, il y a une lumière au bout du tunnel, ou en tout cas un voyant vert, c'est la joaillerie.
Bah, la joaillerie marche très bien parce que effectivement c'est de l'ultra luxe. On voit à peu près sur toutes les marques que la joaillerie se comporte bien.
Rappelez-nous les marques de joaillerie qu'il y a dans le groupe Kering.
Ah bah, des marques de joaillerie, vous avez par exemple, Boucheron, pardon.
Excusez-moi,
oui, voilà, exactement, Boucheron. J'ai un trou de mémoire.
Vous portez peut-être moins de Boucheron.
Exactement. et c'est vrai que c'est un segment du luxe qui fonctionne très très bien. À l'inverse, par exemple, l'horlogerie fonctionne très 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 mal, hein, notamment, bah, on le verra avec Richemont, avec Cartier ou Van Cleef & Arpels. Mais ça c'est une stratégie
qui fonctionne. Les montres, ça va mal parce que les stocks grossissent.
Les stocks grossissent, les spiritueux aussi, hein, fonctionnent pas très très bien. Donc la maroquinerie, effectivement, la joaillerie sont des secteurs en forte croissance où là, on est quand même sur des niveaux de prix qui restent extrêmement élevés.
Bon, on va toucher un tout petit mot de tout ça, comment ça se concrétise côté marché. Ce que je voudrais souligner, c'est qu'on est quand même dans un contexte inflationniste. Les acteurs du luxe, ils ont quand même bénéficié, bon, de la hausse des prix, ça, bien ils sûr. Ont surfé à fond dessus. Et puis, la hausse les consommateurs ont envie d'aller dans les boutiques, les canaux directs. Ça soutient quand même leur croissance.
Et exactement, là de plus en plus, le luxe, c'est quand même cette interaction avec le client. On le voit à l'instar de ce qui peut se passer pour d'autres méthodes de consommation sur Internet. Là, on arrive à capter des clients en direct. Et puis, je voulais dire, sur le luxe, il y a juste quelque chose dont il faut se rappeler, c'est-à-dire que depuis la crise de Covid, la richesse a augmenté, mais les très riches sont devenus encore plus riches. Mmh. Sur les 147 000 milliards de richesse du consommateur américain, on a à peu près, depuis 4 ans, 40 000 milliards de plus de richesse. Il y a à peu près 133 000 Américains qui ont capté plus du tiers de cette richesse. Donc en fait, ce déséquilibre en fait va en faveur de l'ultra-luxe sur cette consommation.
Bon, en tant qu'investisseur particulier, quels sont vos conseils pour conclure? François Monnier d'Investir, en début d'émission, nous disait là, c'est plus le moment de surfer des tendances, c'est le moment d'être en stock picking à l'intérieur des secteurs, on va choisir ses valeurs. Comment on applique ça au secteur du luxe, si vous êtes d'accord, Alexandre?
Tout à fait, on est passé de vision thématique sectorielle, et là on voit bien, on a vu les résultats entre Kering, Hermès, LVMH, Moncler, des fortes différenciations à l'intérieur des secteurs, comme ce qui peut se passer sur les 7 magnifiques par exemple, et exactement, on a exactement la même dynamique aux États-Unis, et il faut aller sur on continue à aller sur les valeurs qui délivrent de la croissance et qui ont une capacité, encore une fois, de monter les prix. Et ce sont des valeurs long terme. Alors, à la différence de ce qu'on pouvait avoir en 2022 notamment ou en 2023, ce sont des valeurs qui vont être moins décorrélées par rapport au marché, à la tendance de marché, parce que c'est des gros poids dans les entreprises. C'est quand même lié de plus en plus à la croissance mondiale. Elles ont fait leur gras sur les marges. Et donc, profiter des à-coups de marché qui, de toute manière, emmèneront ces valeurs à la baisse, alors même que les fondamentaux sont excellents, pour se repositionner dessus et garder en fond de portefeuille des valeurs comme effectivement Hermès qui délivrera dans le futur.
Si les marchés baissent, soyez patients en gros. Elles vont aussi suivre la baisse, mais finalement ce sera peut-être autant de points d'entrée ou de repositionnement sur certaines de ces valeurs. Voilà la parole d'Alexandre Aizé de l'équipe Richelieu avec nous ce vendredi au décryptage du secteur du luxe. On aurait pu parler du luxe d'occasion aussi qui s'installe, qui va être un des sous-jacents sans doute de la croissance future de ces entreprises. Merci beaucoup Alexandre et toute l'équipe de Richelieu. Séquence à retrouver en podcast et en replay sur l'application BFM Business. Et puis je vous précise que ce secteur du luxe fera sans doute l'objet de décryptage également dans BFM Bourse avec Guillaume Sommerer dès 15h30 aujourd'hui, mais dans l'ensemble tous les jours. Vous restez avec nous, on va vous coacher ce matin, on va parler de votre retraite, de votre retraite, de votre épargne et encore plus de votre déclaration d'impôt. Oui, ce qu'il faut avoir en tête quand vous allez déclarer vos PEE, PERCO, PER. C'est maintenant la déclaration d'impôt. À tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business.
C'est Tout pour investir qui continue. On s'occupe de vous, on vous coach tous les jours et en particulier dans cette période fiscale intense qui vous concerne depuis le 11 avril puisque vous êtes censé déclarer vos revenus de l'année dernière. On parle souvent d'épargne salariale et d'épargne tout court pour la retraite dans cette émission. Notre monsieur épargne salariale est avec nous. Bonjour Benjamin Pedrini.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes le cofondateur d'Epsor. On va faire le point sur les trucs qu'il ne faut pas oublier dans nos déclarations d'impôts avec vous quand on a un PER, un PE, un PERCO, bref, quand on épargne pour sa retraite. D'abord, votre regard sur cette déclaration 2024 de plus en plus digitale, presque automatisée, mais qui toujours a ses petits pièges.
Qui est toujours à ces petits pièges et qu'il faut quand même toujours bien penser à vérifier, parce que quand bien même il y a des télétransmissions dans tous les sens, il peut se glisser parfois quelques erreurs, des petites cases à corriger, et notamment sur les sujets qui concernent l'épargne salariale ou l'épargne retraite, parce que finalement tout n'est pas parfois communiqué au bon endroit, donc il est important effectivement de bien se poser et de prendre le temps de la faire pour soit bénéficier de tous les avantages qu'on a voulu mettre en place si on a eu une stratégie l'année précédente, soit éviter de trop déclarer parfois si certains montants sont erronés.
Attention, on le rappelle, l'automatisation, le remplissage automatique de votre déclaration d'impôt ne vaut pas pour valider parce que ces montants, vous devez en tant que contribuable les vérifier, même si votre déclaration elle est pré-remplie avec certains montants, vérifiez-les parce qu'ils ne sont pas garantis. C'est important de le rappeler et ça nous concerne aussi pour tous les sujets d'épargne salariale. Alors d'abord, on va, je veux dire, outiller nos auditeurs et nos auditrices. Il y a des documents clés pour la déclaration d'épargne salariale qu'il faut avoir en tête. Quels sont ces documents?
Chaque année, effectivement, quand vous êtes détenteur d'un plan d'épargne salariale ou d'un plan d'épargne retraite, vous allez recevoir en début d'année trois documents clés effectivement sur lesquels vont se retrouver les montants qui seront à reporter dans votre déclaration au mois de mai, les montants concernant l'année précédente bien entendu. C'est d'une part le relevé annuel de situation que vous recevez de la part de votre prestataire, de votre teneur de compte en épargne salariale. C'est également l'IFU, l'information d'ordre,
l'imprimé fiscal unique,
exactement, l'IFU que vous recevez de vos banques pour tous les placements que vous avez par ailleurs, mais que vous recevez aussi de la part de votre acteur d'épargne salariale et d'épargne retraite.
Alors attention, on le reçoit parfois, il faut être assez proactif pour le recevoir.
Effectivement, il y a certains acteurs qui peuvent traîner un petit peu pour communiquer ce document, mais normalement, effectivement, c'est une obligation de la part des acteurs, quels que soient les produits financiers que vous détenez, de vous envoyer cet IFU et de vous l'envoyer évidemment avant la période de déclaration. Donc généralement, ça arrive dans le courant du premier trimestre. Parfois, effectivement, il faut aller le réclamer parce qu'on l'a pas reçu.
Donc, relevé annuel de situation, IFU pour imprimé fiscal unique, et puis un autre document que vous avez peut-être en tête qu'il faut avoir pour pouvoir remplir.
Et vous recevez aussi un document qui est un document d'information d'ordre fiscal ou de données fiscales. En général, vous recevez ce document-là aussi. Et donc, c'est effectivement les trois documents à avoir entre ses mains, on va dire, au moment de faire sa déclaration pour reporter ou vérifier les montants en jeu.
Benjamin Pedrini, d'Epsor, quels sont les opérations qu'il faut tout simplement déclarer aux impôts et ne surtout pas oublier?
Alors, s'agissant de l'épargne salariale et de l'épargne retraite, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. D'une part, l'épargne salariale, c'est bien évidemment généralement des primes d'intéressement, des primes de participation que vous avez perçues. Ces primes, tous ceux qui les placent sur un plan d'épargne savent qu'ils les placent parce qu'elles sont exonérées d'impôt sur le revenu lorsqu'ils les placent sur un plan d'épargne. En revanche, certains font le choix de les percevoir sur leur fiche de paye et d'être payés de ces primes. Eh bien, ces primes-là, il faut, dans certains cas, les déclarer parce qu'elles ne sont pas forcément automatiquement transmises à l'administration fiscale. Donc, il faut
notamment pour les salariés.
Exactement, les salariés qui perçoivent cette prime-là, lorsque cette prime a été versée non pas par leur employeur, mais par leur prestataire d'épargne salariale, et bien dans ces cas-là, il faut vérifier qu'elle a bien été intégrée au revenu fiscal de référence et dans la partie justement traitement et salaire de la déclaration d'impôt sur le revenu. Ce qui est important de vérifier, surtout parce que là, on est plutôt sur un sujet justement qui va toucher à la diminution de votre imposition, c'est si vous avez fait des versements volontaires sur vos plans d'épargne retraite et des versements volontaires défiscalisés. Et ça, c'est vraiment un point à vérifier parce que vous avez mis en place au cours de l'année précédente une stratégie pour réduire votre imposition. Oui. Donc, encore faut-il bien la déclarer pour que cette imposition soit réduite. Donc là, bien vérifier effectivement que les montants que vous allez retrouver dans votre IFU, ce fameux imprimé fiscal unique, les montants que vous allez retrouver au titre de l'épargne retraite sont bien reportés dans les charges déductibles de votre déclaration d'impôt. C'est pour un peu de précision dans les cases 6 NS de votre déclaration d'impôt sur le revenu sur la partie charge déductible, et donc là bien vérifier ces montants là. Et puis d'autres éléments à vérifier qui concernent l'épargne salariale et l'épargne retraite, c'est l'abondement que certains ont pu toucher sur leur plan d'épargne retraite.
En gros, si j'ai perçu de l'abondement, est-ce que je déclare oui ou non?
Alors, justement, il y a une subtilité sur l'abondement, c'est-à-dire que vous devez reporter dans votre déclaration d'impôt l'abondement que vous avez perçu uniquement sur votre plan d'épargne retraite, pas celui sur le plan d'épargne entreprise, uniquement sur le plan d'épargne retraite. Vous devez le reporter. Pourquoi? Parce que en fait, il va permettre de calculer votre plafond d'épargne retraite. C'est pas un montant sur lequel vous allez payer des impôts sur le revenu, mais il va être intégré à votre plafond d'épargne retraite. Et donc ça, c'est justement un montant à imputer dans votre déclaration.
Si mes placements retraite ont bien travaillé et que j'ai fait des plus-values, est-ce que ces plus-values liées à mon épargne salariale ou mon épargne retraite, je dois les déclarer?
Alors, tant qu'elles sont dans votre plan, vous ne devez pas les déclarer. Le principe effectivement des plus-values, et ça c'est le cas pour la quasi-totalité des produits financiers comme vous le savez, vous allez les déclarer uniquement lorsque vous retirez ces sommes. Donc si vous retirez des sommes de votre plan d'épargne retraite, eh bien, dans ce cas-là, il y a plusieurs éléments auxquels il faut faire attention. Puisque sur votre plan d'épargne retraite, vous avez pu faire des versements défiscalisés. Mmh. Le principe des versements défiscalisés sur les plans d'épargne retraite, c'est qu'on les défiscalise à l'entrée, mais ils sont fiscalisés à la sortie. Donc, si vous faites un retrait de votre plan d'épargne retraite d'un montant qui avait été défiscalisé à l'entrée, eh bien, vous devez l'intégrer dans votre déclaration de revenus pour la partie capitale. Et ce montant-là sera imposé au niveau du taux de votre barème progressif d'impôt sur le revenu. Mmh. Et la plus-value relative à ce capital qui a été placé, eh bien, celle-ci, elle sera imposée au prélèvement forfaitaire unique de 30%. Vous avez une option, puisque effectivement vous pouvez avoir un taux d'imposition dans le cadre du barème progressif qui est inférieur à 30%. Vous avez l'option de choisir de ne pas être imposé sur cette plus-value au PFU, mais d'opter pour le barème progressif. Attention en revanche, parce que si vous optez pour le barème progressif, c'est valable pour tous vos produits financiers et pas uniquement pour les plus-values liées à votre épargne retraite.
Attention donc aux choix que vous faites, parce que plus tard, vous pourriez les regretter. On ne va pas pouvoir lister tous les sujets. On a souligné quelques pièges et quelques éléments à avoir en tête. Je vous fais un peu de pub. Vous avez publié avec l'équipe d'Epsor un petit guide qui nous aide justement à bien avoir en tête les rubriques importantes et les cases à cocher. Où est-ce qu'on peut retrouver ce guide ?
Alors, ce guide, vous pouvez le retrouver sur le site d'Epsor, hein, epsor.fr. Effectivement, nous, on aide effectivement les épargnants dans toute leur démarche. On les aide à la fois dans leur choix de placement. On les aide dans ces moments-là ils doivent être confrontés à ces sujets, et c'est parfois assez anxiogène finalement de remplir sa déclaration d'impôt. Et donc du coup, ça, on a des guides publics qui sont valables et qui sont accessibles à toutes les personnes qui viennent se connecter sur notre site. Et puis évidemment, pour les salariés qui ont des plans d'épargne chez nous, ils ont accès à nos conseillers également pour les aider dans ces démarches-là.
Voilà, on vous a coaché épargne retraite et déclaration d'impôt, Benjamin Pruitrini d'Epsor. C'est quand ça retrouve en podcast et en replay sur notre application et notre site. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Lorraine.
Vous restez avec nous, on continue à s'occuper de vous. On va notamment parler pétrole, métaux et même peut-être un petit peu de denrées agricoles, parce que leurs évolutions se placent au centre des scénarios de marché possibles. Ce sera avec Benjamin Louvet dans moins d'une heure. Avant ça, on parlera immobilier. Mais tout de suite, on part en pub. À tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business. BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de votre argent, de vos finances personnelles, qui vous aide à devenir meilleur investisseur, que vous ayez déjà un capital ou que vous cherchiez à en construire un. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web tous les jours, de 10h à midi, et puis vous le savez, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, en podcast. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent en dehors de nos frontières françaises. Au programme de l'heure à venir, nous allons parler immobilier avec nos experts. Olivier Principal, le président de la FNAIM du Grand Paris, et Virgile Grolot, notre consoeur de Challenge, vont nous rejoindre avec Marie-Cœur de Roy pour discuter de comment encourager ou ré-encourager l'investissement locatif. On parlera de la fin du Pinel, on parlera des perspectives dans le neuf, et on se demandera aussi ce qu'il faut penser du de Normandie. Au programme, plein d'autres choses. On fera le point en fin d'émission sur les matières premières, pétrole, cuivre et argent, avec Benjamin Louvet d'Ophi Invest AM, qui va nous expliquer pourquoi la tonne de cuivre à 12 000 $, c'est possible. Avant ça, nous passons une tête chez Antoine du côté d'Euronext, pour faire le point sur la séance en cours du côté du CAC 40. Cher Antoine, on vous retrouve, on reste en hausse hein, à l'approche de la mi-journée. Mais bon, ça arbitre encore sec, si je puis dire, autour des résultats d'entreprise.
Oui, du coup, c'est un petit peu laborieux hein, du côté d'un CAC 40 qui gagne, 0,29%. On est à 8 039 points. Surperformance très très nette de l'Euronext Tech Leaders, l'indice riche en valeurs technologiques, plus 1,4%, mais là on est dans le sillage vraiment très positif des très bons résultats. Vous en avez parlé de Microsoft et de Google. On a l'Eurostock 50 qui gagne 0,6%, quasiment 0,8% pour le DAX à Francfort qui est un petit peu décidé. Et puis on a aussi l'impact positif des publications du jour, même si on sent les marchés quand même relativement prudents, avec des arbitrages multiples qui s'organise sur plusieurs jours, on l'a dit tout à l'heure, on revient sur certains dossiers, on en met certains de côté. En tout cas, il y a un secteur qui signe vraiment d'excellentes performances et vous en parlez aussi ce matin, ce sont les matières premières, les titres liés aux matières premières. Regardez Saint-Gobain qui gagne 5,5% à 74,32€ avec de très bons trimestriels qui ont été publiés hier soir après bourse, mais on a ArcelorMittal qui se tient bien aussi, plus 1,7% à 23,93€, et la plus forte hausse du SBF 120, elle est pour Eramet qui est en hausse de 10,6% à 87,75€, et Eramet qui rehausse même l'ensemble de ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Bon résultat aussi pour Amundi qui gagne 7,2%, on est à 68,25€. En revanche, on a quelques déceptions à noter. Safran qui est arbitré à la baisse hein, malgré ses trimestriels, moins 1,25% à 204,90€. Déception aussi sur ceux d'Airbus qui recule de 2,4% à 154,76€. Et puis on a toujours Eurofin Scientifique dans le sillage de sa publication qui est quand même en forte baisse sur l'ensemble de la semaine. Le titre perd 1,4% à 56,66. Grosse déception aussi sur les résultats d'Alten qui signe la plus forte baisse du SBF 120 à moins 6%. On est à 121,10. Le CAC 40 donc plus 0,28, 8039 points et l'euro 1,0743. Lorraine.
C'est l'heure de votre histoire, Antoine, et on va parler crypto.
Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
Nous allons parler crypto et puces. Pourquoi ? Parce que Jack Dorsey, le vrai fondateur de Twitter, eh bien, veut rien que révolutionner le secteur des puces et du minage avec de nouveaux systèmes et de nouvelles architectures. Racontez-nous ce que ça veut dire.
Oui, parce que en fait, il en va de l'industrie des crypto-monnaies, du minage, comme il en va de l'intelligence artificielle, comme il en va de beaucoup de secteurs. À savoir que si vous ouvrez les armoires de serveurs de n'importe quelle usine de minage Bitcoin, par exemple, qu'est-ce que vous trouvez ? Des racks entiers de cartes graphiques GeForce RTX de chez Nvidia. Il n'y a que ça. C'est l'Air Jordan de tout un tas de secteurs d'activité, hein, c'est-à-dire ce qui se fait de meilleur avec le meilleur rapport coût-capacité de calcul. Eh bien, Jack Dorsey veut progressivement réduire cette Nvidia dépendance, toujours très très forte, au sein de l'industrie crypto. Il faut savoir d'ailleurs qu'Nvidia avait mis au point, il y a quelques années, des produits spéciaux qui étaient vraiment consacrés aux crypto, en voyant que l'industrie crypto se mettait à piocher dans les banques d'organes des gamers et d'autres secteurs d'activité, parce que les cartes graphiques, c'était ce qu'il y avait de plus puissant pour calculer les capacités de minage. Maintenant, ça avait été abandonné parce que Nvidia ne voulait pas mettre de sous dedans. Hein. Les perspectives de l'industrie crypto à l'époque étaient quand même pas très très porteuses. Et puis, il y a eu l'ouragan de l'intelligence artificielle hein, qui a vraiment réorienté la société. Mais la boîte de Jack Dorsey, Block, vient de présenter un système entier d'architecture spécialisée dans le minage, organisé autour d'une puce magique qu'ils ont commencé à concevoir il y a un an et qui va rapidement être mise en production. Alors, chez un fondeur réputé, dit Block, sans plus de précision pour le moment. Une puce 3 nanomètres qui est plus efficace, qui est plus rapide et moins consommatrice d'énergie que la puce standard du chinois Bitmain, qui fait référence à 5 nanomètres. Et vraiment, Jack Dorsey veut raisonner en architecte. Un peu comme ARM, on ne vous vend pas simplement une puce, on vous vend la technologie, le système complet de minage. Tout ça arrive après un travail complexe de recueil des besoins chez les grands mineurs qui ont besoin d'urgence de nouveaux systèmes plus précis, plus rapides, d'autant que le halving vient de diviser quand même par deux leur rémunération en Bitcoin pour chaque bloc produit. Ils ont donc besoin de produire plus vite et en plus grande quantité pour conserver leur rentabilité.
Merci Antoine pour cette histoire. Voilà, Jack Dorsey qui veut révolutionner le minage, on l'entend, avec des nouveaux systèmes mais surtout des nouvelles architectures. Cette histoire est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Antoine, on vous retrouve plus tard pour continuer de surveiller ce qui se passe du côté de notre CAC 40 qui évolue toujours au-dessus des 8000 points à 8036 points. C'est le temps de parler immobilier. Le vendredi, une demi-heure d'expertise réunie, du jus de cerveau pour faire le point sur le secteur immo. On va parler logement, on va parler DPE, on va parler neuf. On va même parler Pinel, vous voyez. C'est dans quelques minutes. Vous voulez réagir et participer à cette séquence, ça se passe à l'adresse directe @bfmbusiness.fr, mais ça se passe aussi sur LinkedIn. Vous pouvez m'écrire en message privé, je vous lis, comme Guillaume, Mathieu ou Jean-Yves. A tout de suite.
Tout pour investir, les experts de l'IMO.
On s'occupe d'immobilier tous les jours, bien sûr, à 11h15 dans Tout pour investir, mais le vendredi, ça ne dure pas un quart d'heure, ça dure une demi-heure.
Il y en a plus.
Il y en a plus. Marie Cœur de Roy nous a rejoint. Bonjour, chère Marie.
Bonjour, Lorraine. Bonjour à tous.
Nous ne sommes pas seuls. Notre consoeur de challenge est avec nous. Bonjour, Virginie Grelot.
Bonjour.
Vous êtes chef de la rubrique immobilier chez Challenge. Et puis, nous ne sommes pas contre femmes. Olivier Principal est avec nous. Bonjour, Olivier.
Bonjour, mesdames.
Vous êtes le président de la FNAIM du Grand Paris. Sans surprise, nous allons parler de la crise. De la crise du marché locatif pour démarrer, mais plein d'autres choses pendant une demi-heure. On est connecté, on est branché avec vous, chers auditeurs. Vous voulez réagir, participer à cette antenne, vous connaissez les adresses direct@bfmbusiness.fr ou même sur LinkedIn. Je suis connectée, je vous lis. Marie, cette crise du marché locatif, nous avons le regard de nos experts pour faire le point fin avril, là. Peut-être quelques frémissements de nouvelles.
C'est la question qu'on se pose, c'est-à-dire qu'on a des frémissements sur le marché de la transaction, on en parlera, mais justement, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que du coup, ça a une incidence positive sur ce marché locatif qu'on s'est particulièrement tendu depuis, j'ai envie de dire, quelques mois, voire quelques années. C'est juste qu'on en parle un peu plus depuis la rentrée de septembre. Bref, le fait est qu'on était sur une crise sans précédent du marché locatif, extrêmement tendue. Elle existe encore, cette crise, Olivier, ou pas? Elle va mieux? Et si elle est toujours là, à quoi est-elle due?
La crise, on peut dire qu'elle va bien, parce qu'elle est toujours là.
la crise va bien.
Oui, la crise va bien. C'est-à-dire que ça s'est amplifié. On n'a toujours pas de desserrage du marché. Il n'y a pas plus d'offres sur le marché.
Il n'y a pas plus de locataires
qui trouvent un logement. On n'a pas de congés qui sont délivrés par les locataires en place qui veulent.
Vous regardez le turnover, ça, justement, en fait?
Ah non, mais en ce moment, il n'y en a plus. On n'en a plus.
C'est-à-dire, les locataires qui sont en place ne bougent plus, quoi?
Non. Non, non. On reste chez soi. On reste chez soi pour des raisons évidentes. On ne trouve pas autre chose à louer. On n'a encore pas l'accompagnement nécessaire pour aller acheter un bien immobilier. Donc, on est sur un système protectoral. On reste où on est et on attend que ça se décoince.
Et l'offre, justement, vous parliez de cette offre, c'est-à-dire cette demande, évidemment, elle n'a pas cessé, elle ne s'est pas détendue. Est-ce qu'il n'y a pas un peu plus d'offres aussi? Est-ce que l'investissement locatif n'est pas un peu revenu avec les assouplissements du côté des banques, avec peut-être cette envie d'investir dans la pierre qui pourrait être de retour? Est-ce qu'il y a encore des freins à cet investissement locatif?
Je pense que rien n'a changé. Alors, je suis désolé de le dire, parce qu'on le constate tous les jours et c'est malheureux. En réalité, on a un calendrier qui est de plus en plus contraint. Les Jeux Olympiques, c'est demain. Donc, en fait,
C'est dans trois mois. Ne stressez pas tout le monde. Non,
non. D'accord. Bon, je dis c'est demain parce que en termes de mouvement dans un logement, on a aujourd'hui des logements qui se libèrent et qui restent en attente d'éventuelles locations de courte durée pour les Jeux Olympiques. On n'a pas créé de nouveaux logements, donc il n'y a pas une meilleure offre. Et on a toujours le calendrier de la réglementation énergétique, les travaux qui frappent les logements d'indécence, qui eux arrivent au 1er janvier 2025, donc c'est très proche. Donc en réalité, on a toujours cette contraction de tout un tas de sujets qui crispent les bailleurs et on n'a pas de dispositif d'aide à l'investissement locatif ou d'avantages fiscaux, quelque chose qui permettrait de faire revenir sur le marché des investisseurs. Par contre, il y a une chose qui explose, c'est la vacance des logements. Et donc, du coup, là, c'est sonnette d'alarme. Il va falloir sérieusement faire quelque chose.
Bon, et justement, sur cette crise de l'investissement locatif, alors après, moi, je pense qu'il y a débat, hein, mais il y a un sujet que beaucoup, dont la FNAIM, mais vous n'êtes pas les seuls, ont quand même pointé du doigt sur le fait qu'on investissait de moins en moins, et a fortiori dans des villes soumises à l'encadrement des loyers. On a eu cette semaine des chiffres, Virginie, sur les effets de l'encadrement des loyers. Alors, non pas sur les propriétaires bailleurs, mais bien sur les locataires eux-mêmes. Et là, a priori, force est de constater que c'est plutôt des effets positifs, non?
On parle d'économie.
On parle d'économie, effectivement. C'est une étude, alors, de l'Atelier parisien d'urbanisme, de l'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne, du groupe Se Loger et du groupe de recherche Césaire. Tous ces gens se sont réunis, ont travaillé et ont estimé qu'entre 2019 et 2023, l'encadrement des loyers, la mise en place sur Paris, je ne parle que de Paris, aurait permis d'éviter une hausse des loyers de 4,2%. Et sachant que En début de période, on était plutôt à moins 2,5% entre 2019 et 2020 et moins 5,9% entre 2022 et 2023. Donc, lissé, ça fait moins 4,2. Moins 4,2, ça fait 64 euros d'économie par mois pour les locataires, soit quasiment 800 euros par an. Bon.
Ouais, c'est pas rien quand même.
C'est pas rien, mais c'est pas ça qui va faciliter, je trouve, effectivement, la mobilité des locataires.
Mais Virginie, vous pensez pas là qu'en l'occurrence, c'est quand même un effet positif de l'encadrement?
De payer un peu moins, forcément.
C'était le but.
Pour ceux qui payent moins, oui. Mais est-ce que ça a amélioré globalement la situation et le confort des locataires? J'en suis pas persuadée, puisque de toute façon, cette mesure n'a aucun effet sur l'offre, si ce n'est au contraire, chez les plus récalcitrants, de la réduire. Il faut savoir quand même qu'en plus, aujourd'hui, 38% des annonces sont en dehors des clous, c'est-à-dire du plafonnement, dans la mesure où, en faisant appel à un complément de loyer, on dépasse
le niveau. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut faire appel à un complément.
Parce qu'il y a tous ces critères. Alors, ça peut être avoir un balcon, ça peut être avoir une vue sur la Tour Eiffel.
Un jacuzzi.
voilà, par exemple. Ça n'a pas d'impact sur la masse globale. Alors, la mairie de Paris, elle, se déclare évidemment très satisfaite, hein, puisque elle considère que les locataires ont bénéficié effectivement d'une augmentation moins élevé que prévu des loyers, puisque les loyers ont quand même un peu augmenté, mais c'est moins que prévu. Et en tout cas, les locataires, je pense, ne sont pas forcément beaucoup mieux logés, malgré ce dispositif d'encadrement des loyers.
Olivier, c'est votre avis aussi ? J'imagine que oui, hein, mais...
Il y a un chiffre qui ne trompe pas, c'est que sur les 5 dernières années, c'est-à-dire depuis la création de l'encadrement des loyers, les loyers ont augmenté de 7%. Enfin, un peu plus de 7%. Donc en réalité, les loyers, ils ont continué à augmenter. Donc, on peut toujours se gargariser de dire que ça a augmenté moins que prévu. Ce qui est logique, on a créé une loi dans laquelle on met des loyers fixés à la baisse. Donc, mécaniquement, c'est le cas. Je rappelle aussi que depuis 2014, entre deux locations, vous n'avez pas le droit...
Il y a l'encadrement à la relocation.
Voilà. Ouais. Et les augmentations de loyers sont encadrées uniquement par l'indice de révision des loyers, qui lui-même, sur les deux dernières années, a été plafonné.
Bon.
Moi, ce que je peux noter, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'explosion de la vacance locative, c'est que c'est très joli de dire qu'on a limité l'augmentation des loyers, mais on a fait exploser la vacance locative.
C'est-à-dire, en gros, on a dissuadé des propriétaires.
Dissuadé les bailleurs d'aller acheter. Il vous faut 40 ans pour amortir un appartement. C'est-à-dire, vous achetez un appartement cher, vous vous dites, bah, tiens, mon loyer va... peut-être pas couvrir la totalité du crédit, mais ça va me permettre quand même de le couvrir. Et puis, du jour au lendemain, on vous met l'encadrement des loyers qui vous fait perdre 20% de cet investissement. Ça vous rallonge votre retour sur investissement d'une dizaine ou d'une quinzaine d'années. Mais enfin, c'est un sketch. Comment vous iriez investir dans un marché aussi tendu que le marché parisien, où les prix sont extrêmement élevés?
Je suis désolée, je vous interromps, Olivier, parce que là, sinon, on va tous aller dans le même sens et c'est pas drôle. Mais à un moment donné, les prix parisiens sont tels, et depuis bien avant l'encadrement des loyers, que quand on faisait un investissement locatif à Paris, on ne visait pas le rendement. Jamais les investisseurs à Paris n'ont visé le rendement. Ils visaient la plus-value en sortie, parce qu'ils savent que pour le coup, acheter à Paris, c'est pas un sujet de rendement, c'est un sujet de plus-value à moyen long terme, mais pas de rendement à court terme.
Vous avez raison, Marie, mais jusqu'alors, on avait des investisseurs institutionnels, ce qu'on appelait les zinzins. Aujourd'hui, il n'y en a plus. En réalité, on a dissuadé toute idée d'investissement locatif. Et comme on ne crée pas de logements à Paris, on ne surélève pas, on ne construit pas dans d'autres espaces, on ne densifie pas, il se passe quoi? Mais il se passe rien.
Donc ça veut dire quoi? Pour vous, là, si je vous regarde tous les deux, la réglementation tue le marché locatif?
L'excès de réglementation, en tout cas, contrecarre grandement le marché locatif.
Mais c'est donc difficile de ménager la chèvre et le chou, à vous entendre. Je dirais, à un moment, il faut soit aider les locataires, soit aider les propriétaires.
Oui.
Là, on parle de la mairie de Paris, et on n'est pas là pour faire de la politique, mais l'effet de l'encadrement des loyers, on le voit, il est, à vous entendre, moyennement bénéficiaire pour les locataires, et il est carrément castrateur pour les potentiels ou les ex-investisseurs.
Mais on peut aider les deux.
En faisant quoi?
C'est pas soit le locataire, soit le bailleur. En réalité, on est sur un marché d'habitat. On sait bien que nos investisseurs qui achètent des logements, ils ont...
Oui, mais je rejoins Lorraine, en faisant quoi, Olivier? En faisant quoi?
Mais par exemple, plutôt que de mettre en place un encadrement de loyer, on a eu des dispositifs qui étaient très performants. Vous prenez ce qu'on appelait le cellier intermédiaire, le cellier social. Vous aviez un avantage fiscal où vous aviez 30% d'abattement sur vos revenus locatifs à partir du moment où votre loyer était inférieur au prix du marché.
Mais ça existe toujours, il y a toujours des dispositifs pour bénéficier davantage.
Cherchez dans Paris, où est-ce que vous pouvez le faire? Ça n'existe pas.
Bah parce que vous considérez que les plafonds de loyer qui, dans ces cas-là, doivent être respectés, sont pas assez attractifs pour les propriétaires bailleurs, mais ils auraient des ristournes fiscales s'ils acceptaient de baisser les loyers, ça existe.
Non seulement c'est pas attractif, c'est intéressant pour le locataire. Moi, j'ai pas de sujet. Je veux dire, à un moment donné, le loyer explose, qu'on essaie de trouver des dispositifs. C'est bien de plafonner les loyers, mais si on ne traite pas la cause, c'est-à-dire la capacité de faire un vrai choc d'offres que nous annoncent tous les ministres et le Premier ministre.
Depuis 2017.
Et pour l'instant, les chiffres sont pas vraiment très choquants, mais en l'occurrence, il y a un moment donné, si on règle pas ce problème-là, on n'y arrivera pas. Il faut inciter le bailleur à contrôler son prix à la hausse pour que le locataire en bénéficie et que le bailleur se dise, fiscalement, ça me coûte la même chose, autant louer un petit peu moins cher. Je veux dire, mais il faut que l'État accepte de dire qu'à un moment donné, le logement est une priorité, on a besoin d'apporter ce service que les pouvoirs publics ne peuvent pas porter de leur côté avec la construction et le marché social. Donc, à un moment donné, il faut y aller.
Je peux pas m'en empêcher. Je voulais vous parler. Je vous l'avais dit dans la préparation de l'émission. Je voulais vous parler de l'exemple argentin. On s'est fait interpeller sur les réseaux sociaux. Moi, ça me met en colère. Mais bref, on va reciter l'exemple argentin avec Javier Milei qui a décidé de complètement défoncer toute réglementation du marché locatif.
Marie, et ça s'est joué. Défoncer son micro.
Exactement.
Calmez-vous.
À Buenos Aires, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'on a dit c'est open bar pour tous les propriétaires. Donc ça, c'est depuis décembre, janvier dernier. C'est open bar pour tous les propriétaires. Ils peuvent pratiquer les loyers qu'ils souhaitent, être payés comme ils le souhaitent, avoir des contrats comme ils le souhaitent, virer les gars comme ils le souhaitent. C'était open bar pour les propriétaires bailleurs. En dérégulant, tout le monde espérait, effectivement, c'était la théorie de Javier Milei, qu'effectivement, on aperçoive un surenchérissement de l'offre locative de biens à louer à Buenos Aires et potentiellement une baisse des loyers. Bah, force est de constater qu'effectivement, là, les derniers chiffres nous montrent qu'il y a 3 fois plus d'offres de logements à louer à Buenos Aires et que les loyers commencent à baisser. Pas de manière spectaculaire, mais ils commencent à baisser. Est-ce que ça veut dire que l'exemple argentin, la dérégulation totale, c'est la solution face à une crise du marché locatif?
Non, c'est pas forcément la solution, mais on voit effectivement, là, tout d'un coup, zéro réglementation. Forcément, les propriétaires sont revenus en masse, et à partir du moment où vous avez beaucoup d'offres, et bien les prix baissent. Bon, bah, c'est d'une logique économique de base. Il va y avoir sûrement derrière, peut-être, d'autres ajustements. Mais entre tout et rien,
la nuance,
forcément un juste milieu. Et il faut un pilotage un peu plus fin, sans doute, pour protéger certains locataires qui en ont besoin, accorder un peu plus de souplesse, ou peut-être un aménagement fiscal, ou en tout cas des règles de gestion plus souples, puisque peut-être qu'aujourd'hui, le 3-6-9, comme on le voit dans les bureaux, c'est plus tout à fait ce que les gens recherchent. On a vu l'explosion du meublé. Là, on voit les explosions des courtes durées, puisque l'idée, c'était de libérer les logements pour les Jeux Olympiques. Donc, on voit bien que, de toute façon, les propriétaires vont chercher tout
systématiquement
les portes de sortie qu'ils peuvent prendre. Donc, à un moment, quand on constate que ça n'est que ça, eh bien, il y a un problème.
Donc, c'est faire preuve de nuance. C'est-à-dire, l'exemple argentin, c'est peut-être pas la panacée non plus.
Je pense pas que ce soit la panacée, parce que c'est très temporaire. Là, c'est juste les premiers mois de cette dérégulation. Et on verra bien.
Un pays en crise structurellement aussi depuis des décennies, avec quand même des gros problèmes d'inflation, etc.
Oui. Mais donc, je pense qu'il faut pas comparer Paris et Buenos Aires. Ça n'a aucun rapport, mais il y a sûrement, en tout cas, forcément un moyen, par la discussion, par la négociation, de trouver des solutions pour être entre tout et rien.
Olivier ?
Moi, je suis complètement d'accord. On en parlait tout à l'heure. En fait, on en met tellement sur les propriétaires immobiliers que ça présente plus d'intérêt d'y aller, donc il faut arrêter l'accumulation de contraintes réglementaires et techniques. Faut libérer, donner un bol d'air au marché immobilier. Et d'ailleurs, ce qui se passe sur Paris n'est pas nécessairement ce qu'on voit en première ou en deuxième couronne, ouais, en Île-de-France. Moi qui viens de Seine-Saint-Denis et qui travaille désormais sur Paris intramuros, c'est deux marchés différents. Je veux dire, quand vous avez du logement disponible parce que on construit, parce qu'on transforme et qu'on met à disposition du logement, eh ben, vous faites plusieurs visites avant de louer. Vous avez la liberté de choisir. Sur Paris, c'est
la guerre.
C'est la jungle. C'est la jungle.
Bon, et puis quand même, pour conclure sur ce débat sur le modèle, et je mets de gros guillemets argentin, je rappelle qu'il y a des effets de bord quand même, et que si effectivement les loyers commencent à baisser parce qu'on a eu un surenchérissement de l'offre, c'est aussi parce qu'on a beaucoup de locataires argentins qui ont soit quitté la ville de Buenos Aires pour aller ailleurs, soit se sont retrouvés à la rue. Et donc maintenant, on a des propriétaires bailleurs qui, certes, ont les mains libres pour louer comme ils veulent, encore faut-il qu'ils trouvent des locataires, d'où le fait qu'ils baissent les loyers. Donc encore une fois, oui, il y a des marchés qui s'autorégulent, quasiment tous de mon point de vue, y compris celui de l'immobilier et du logement, mais à quel prix? C'est toujours la question qu'il faut se poser. Et là, c'est sans doute au prix de beaucoup de locataires pauvres. Voilà, c'est juste
La déréglementation de l'IMO en Argentine, comparaison terminée avec ce qui se passe chez nous en France. Olivier Principal de la FNAIM du Grand Paris, et votre éclairage grand parisien va nous aider dans la deuxième partie de l'émission. Virginie Grolot de Challenge et puis Marie Cœur de Roy au service des sujets immobiliers à suivre dans Tout pour Investir. On marque une rapide publicité, quelques minutes, et après on continue à réfléchir à comment quoi encourager ou réencourager l'investissement locatif. On parlera du Pinel et on parlera aussi des copropriétés. Ça se dégrade, hein ? On va prendre le pouls. À tout de suite.
Tout pour investir, les experts de l'IMO.
Les pipelettes de l'IMO. Je peux vous dire que pendant la pub, ça parle. Alors, nous sommes en train de faire le bilan, réfléchir à comment on peut encourager ou réencourager l'investissement locatif. Marie, à vous.
Bah, c'est pas demain la veille qu'on aura notre fameux statut du bailleur privé qu'on attend, on attend. D'ici là, on sait qu'on va perdre le Pinel dans le neuf. Et j'ai envie de dire, je l'ai teasé un peu comme ça hors antenne, mais je vais vous le faire, le Pinel va mourir, vive le De Normandie. C'est ça un peu l'idée, Olivier? Et alors, on va rappeler ce que c'est que le De Normandie aussi au passage.
Le De Normandie, ça reste un dispositif d'aide à l'investissement dans les biens rénovés, donc des biens anciens, rénovés, de qualité. Donc c'est un dispositif d'incitation, donc on va dire il est bienvenu, il existait, il s'étend un peu, super. Très bien.
Moi, je peux en faire où du De Normandie aujourd'hui, Olivier ?
Alors, initialement, c'était dans les cœurs de ville. Il y avait 200 cœurs de ville en France. C'était des villes, donc pas des métropoles.
Hein. Pas des grosses, vraiment... des grosses villes sous tension.
Non, mais en tout cas, ça avait le mérite d'être une expérimentation intéressante sur ces 200 cœurs de ville. Nous, immédiatement, quand on a vu le dispositif, qui était en fait un peu la prolongation de ce qu'on avait à l'époque sur le Borloo et le Besson, c'était une façon d'attirer les investisseurs vers des marchés plus difficiles que le neuf, qui est l'ancien à réhabiliter.
Et donc, c'est une sorte de Pinel ancien, en fait.
Oui. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Amortissement, déduction fiscale. Donc, ça permettait d'attirer du monde. Et plutôt que d'avoir des logements qui restaient cristallisés sur des mauvaises normes ou une mauvaise performance énergétique, on arrivait sur quelque chose de sympa. Donc, on contribuait à cette rénovation globale.
Vous parlez au passé ?
La problématique, c'est que ces dispositifs, pour qu'ils soient efficaces, il faut arriver à les étendre et pas seulement à des micro-marchés. Je veux dire, aujourd'hui, notre crise, elle est multifactorielle, elle est sur l'ensemble du territoire national. Et à un moment donné, si quelque chose fonctionne bien, étendons-le un grand coup, quitte à ce que ça soit sur une période un peu courte, mais au moins, on redonne le bol d'air qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, il faut pousser ces dispositifs.
La proposition, c'est de dire, il faut accorder des ristournes fiscales à ceux qui promettent d'investir, de mettre à la location des biens qu'ils s'engagent à rénover. C'est ça que vous dites ? Partout ?
Il faut accompagner fiscalement les personnes qui prennent le risque d'acheter un bien immobilier, d'assumer des travaux pour le mettre à disposition des locataires.
En parlant d'accompagnement, je rebondis sur le message que François, notre auditeur, vient de nous envoyer. Il nous dit, pour encourager l'investissement locatif, en parlant d'accompagnement, les promoteurs devraient peut-être étudier des formes d'ateliers collectifs pour permettre aux acquéreurs dans l'ancien de mieux se projeter. C'est ce qu'il manque, il trouve, notre auditeur François. Se projeter, manque de transparence côté offre pour rassurer la demande. Accompagner, mais pas que financièrement.
Oui, alors après, je suis tout à fait d'accord. Je pense que les promoteurs ont quand même, alors je ne sais pas ce qu'en pense Virginie, mais les promoteurs sont quand même beaucoup impliqués là-dedans pour essayer justement avec la visualisation en 3D quand on achète, parce que j'imagine qu'ils parlent de ça. C'est-à-dire quand je vis dans l'ancien, comment me projeter quand ils parlent de promoteurs, donc sur le neuf. J'imagine, hein, je ne sais pas François si je dis une grosse bêtise ou si j'ai mal lu, mais l'enjeu c'est quand même effectivement de pouvoir se projeter dans le neuf pour pouvoir essayer de passer à l'acte. Je sais pas ce qu'en pense Virginie, mais j'ai le sentiment quand même qu'il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui sont à la disposition des potentiels acheteurs pour se projeter un tout petit peu quand même.
Oui. Et puis de toute façon, la règle d'or, j'allais dire, c'est l'emplacement. Et après, il faut regarder effectivement ce qu'on achète. C'est-à-dire, si on achète un rez-de-chaussée sur cour, bah, ça va peut-être pas être hyper sexy comparé à un dernier étage avec le gentil balcon qui va bien. Mais ça, c'est des règles de base de l'immobilier. Je pense qu'il faut plus d'accompagnement aussi sur l'ensemble du process, c'est-à-dire comment on rédige un bail, comment ça va se passer, la mise en copropriété, etc., etc. C'est un peu plus global que ça, et ça, effectivement, peut-être
c'est-à-dire
que
pour
certains
l'achat, puis la mise en location, enfin, avoir
l'achat,
un accompagnement
puis la mise
de
en location. Souvent, c'est d'ailleurs les promoteurs, hein, sont des agences immobilières qui vont sélectionner le bailleur, etc., le locataire, pardon, et accompagner, enfin, faire toute la recherche du locataire, vérifier sa solvabilité, et s'occuper du contrat de bail. Donc, il y a quand même un accompagnement, peut-être qui peut être jugé insuffisant, mais qui est réel
qui
quand même.
Quand même. Bon,
alors,
Virginie,
qui est payant aussi, souvent.
En attendant, c'est quand même la crise. Hein.
Oui.
Et puis, bah, alors, je suis désolée, hein, on y arrive toujours. Le problème, c'est qu'en ce moment, le marché, on ne peut pas dire, les frémissements ne suffisent pas. Hein. Et donc, techniquement, on a quand même une situation assez problématique pour tout un tas d'entreprises qui sont en difficulté.
Oui. Alors, ben, c'est toute la filière hein, qui est touchée. Donc, on voyait les derniers chiffres, hein, cabinet Altares, sur les faillites. Alors, il y avait toute une partie sur les agences immobilières. Il y en a plus de 900 qui ont fermé l'an dernier. Il y en a déjà quasiment 400 sur le premier trimestre 2024. Donc, le rythme s'accélère, ce qui correspond...
En fait, aux problématiques de l'année dernière.
Aux problématiques de l'année dernière. On voit, et ça doit sans doute pas s'arrêter, on voit les plans sociaux avec l'annonce toute fraîche du plan social de 500 personnes chez Nexity, Bouygues c'est 200 ou 300 personnes, il y a eu Vinci Immobilier, il y a les plans sociaux qui ne disent pas leur nom chez d'autres promoteurs. Du côté des constructeurs de maisons individuelles, c'est la AST, suspension de cotation de AST Group, ouais. Et on sait bien qu'il y a beaucoup de constructeurs qui sont à la peine. Il y a eu tous les départs non renouvelés, réduction de voilure, toute la filière souffre, et après ce sont tous les métiers connexes, c'est valable pour les courtiers, c'est valable pour les diagnostiqueurs, c'est valable pour les notaires. Il y a quand même un pan économique qui est mal en point et on peut ne pas être très très optimiste sur 2024 non plus.
Bon, comme on est dans la partie un peu pagaie, on a parlé de la crise effectivement pour les professionnels, les entreprises du secteur. J'ai envie de dire que c'est aussi la crise dans les copros justement.
Plans sociaux, faillite, transition idéale.
Bah, il y a aussi des copropriétés en faillite, hein, Olivier.
Ouais, alors c'est vrai que c'est un peu chiant de parler tout le temps de crise.
Voilà, un petit peu ennuyeux aussi. Vous pouvez rester poli même si c'est triste.
Bon, je ferai attention sur ma technologie. Non, mais c'est vrai que c'est lourd parce que ça touche tout le monde. Et puis on n'a pas parlé des collectivités publiques, hein. Mais les départements, les communes.
Ah, bah oui, moins de taxes foncières, moins de droits de mutation.
Pas de droits de mutation, voilà, il n'y a pas de revenus. Donc c'est vrai que ça impacte tout le monde. Et c'est pour ça que c'est assez difficile de ne pas avoir de mesures choc d'un coup qui nous permettent de changer la donne immédiatement parce qu'on est tous accrochés à ça. Et on dit toujours qu'en bâtiment va tout va, c'est vrai.
Mais là, ça va mal.
On va pas. Ouais. Donc, dans les copros, comment ça se passe? Dans les copros, bien évidemment, on a une légère augmentation des impayés en copropriété.
C'est quoi le taux d'impayé?
Alors ça, c'est un vrai sujet. Il n'est pas énorme, le taux
d'impayé. Parce que c'est des retards de paiement de charges, c'est
fait,
quoi?
En fait, ce ne sont que des retards. On a un sujet avec le registre national des copropriétés qui nous donne des mesures, mais les mesures qui sont déclarées dans le registre des copropriétés, c'est qu'une situation comptable à date, et ces situations comptables qui sont des débits, sont en général réglées le mois qui suit. Donc en fait, il n'y a pas tant d'impayés que ça. Mais par contre, quand on se dit que 240 000 copropriétés sont au-delà de 25% d'impayés parce que c'est écrit dans le registre, tout de suite, on se dit c'est la catastrophe. Les copropriétés en difficulté.
Ça, c'est l'échelle nationale, ça?
Oui, mais c'est parce que c'est une vision comptable de l'esprit à un moment donné qui n'est pas du tout la
réalité. Oui, c'est en gros 25% en avril. Quoi.
Dans un immeuble, vous recevez votre facture, ben, un mois après, elle est payée, il n'y a plus d'impayés. Il peut y avoir un peu de retard, c'est pas grave. La copropriété fait son recouvrement, enfin, on se débrouille. Mais il n'y a pas tant de copropriétés que ça. Je tiens à dire quand même qu'il n'y a que 200 saisines de mandataires qui viennent accompagner, avant l'administration judiciaire des copropriétés, 200 saisines par an. Il y a presque 800 000 copropriétés.
Donc en gros, 200 cas vraiment tendus, quoi.
Sur presque 800 000 copropriétés, donc c'est pas non plus la catastrophe. Par contre, on constate comme en réalité, avec une augmentation des charges, notamment l'explosion des coûts de chauffage, qui a été limitée grâce au bouclier tarifaire, on note qu'il y a un peu plus de difficultés à assurer
plus le paiement de retard, des charges. Quand même, voilà.
Et on a des augmentations avec l'inflation, on nous met du 6, 8, 10% sur certains contrats, donc à un moment donné, tout le monde tire la langue, et c'est vrai qu'il faut être vigilant quant au bon suivi de l'état financier de la copropriété, ce que font les professionnels, parce que je rappelle que la gestion des copropriétés, c'est 92% les immeubles, et c'est pour ça que dans le cadre de la loi Habitat dégradé, on a voulu faire comprendre au pouvoir public qu'il ne fallait pas mettre toutes les copropriétés sous des régimes de protection de copropriétés dégradées parce qu'elles ne sont pas du tout nécessairement en difficulté, contrairement à ce qu'on pourrait...
Mais enfin, Olivier, à tout ça s'ajoute aussi les enjeux de rénovation énergétique qu'on aborde au fil de l'eau depuis le début de l'émission, parce que ça reste en fond de sauce quand même, hein, mais ces obligations de rénovation énergétique dans les copros, elles existent aussi, hein, ça aussi, est-ce que ça pourrait être tenu compte tenu de la santé financière des copros aujourd'hui?
Ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez du mal à payer vos charges, vous n'allez pas vous lancer dans un dispositif de rénovation énergétique. Donc, on peut pas dire aujourd'hui que les copropriétés sont impactées par les impayés parce qu'elles ont lancé des grosses opérations de rénovation. Parce qu'en réalité, ça a du mal à décoller, cette rénovation énergétique. Donc, oui, à force, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne veut pas trop assouplir les règles d'adoption des travaux de rénovation énergétique, c'est que si peu de copropriétaires arrivent à embarquer toute la copropriété, et si les copropriétaires n'ont pas les moyens financiers d'assumer cette rénovation énergétique, on va aller au carton, ça va être la catastrophe.
Donc, faut faire quoi?
Il faut faire quoi? Il faut accompagner cette rénovation énergétique, structurer les financements avec les éco-prêts à taux zéro pour pouvoir accompagner le financement dans les immeubles. Il faut s'assurer que France Rénove et tous les dispositifs publics d'accompagnement se structurent correctement, que les entreprises soient là et qu'on y aille avec de la pédagogie dans un temps qui correspond au temps long de l'immobilier et de la copropriété, qui est plutôt sur 5-7 ans. La moyenne sur une rénovation énergétique, c'est 7 ans.
Là, Olivier...
C'est pas demain au 1er janvier 2025.
Olivier, dans le rêve, donc poursuivons dans le rêve pour terminer cette émission, je vois.
Attends. Habile transition.
Oui. Bon, transition. Merci.
C'est bien que vous ne présentiez bien. Pas toute cette émission. Hein, parce que vos transitions sont quand même très douteuses.
Oh, bah non, quand même, là. Non, mais effectivement, je pense que effectivement, c'était sympa de terminer cette émission parce que forcément, on parle du marché locatif, de l'investissement, de la crise dans les copros, de la crise pour tout le business autour du logement et de l'immobilier. Je pense qu'effectivement, on va souffler un tout petit peu pour terminer et c'est grâce à Virginie. Parce que là, on va découvrir un truc de dingue que je ne pourrais jamais m'offrir.
Eh ben oui, mais comme beaucoup de Français d'ailleurs, et d'ailleurs ce ne sont pas des Français, en fait on a...
et d'ailleurs, c'est pas pour nous.
Si, si, mais ça pourrait, on peut tout imaginer. Simplement, on a donc décidé dans le dernier numéro de Challenge de faire un dossier immobilier qui porte plutôt sur le luxe, puisque ça reste quand même une niche qui marche mieux que le reste. Je dis pas que c'est la super forme non plus, hein, parce que tout a ralenti, le luxe aussi. Mais c'était simplement, vous avez eu il y a quelques mois, cette transaction record dans Paris, 35 millions d'euros pour un appartement sur le Champ de Mars de 669 mètres carrés. Il y a de la place.
Un petit appartement.
Le réseau John Taylor qui a conclu cette transaction.
On a le DPE ou pas, Virginie?
Le DPE, il est nickel parce que en fait, c'est l'illustration des biens qui se vendent extrêmement bien aujourd'hui à Paris ou sur la Côte d'Azur ou dans les Alpes. Ce sont ce qu'on appelle les biens clés en main. Ce sont des appartements ou des immeubles ou des hôtels particuliers ou des chalets ou des villas, peu importe, qui sont repris par, en l'occurrence, c'est la Cogema, c'est-à-dire une société dont c'est la spécialité, mais il y a des fonds d'investissement, il y a des family office, des sociétés qui prennent un actif, qui vont le rénover de fond en comble, qui vont le meubler, le décorer, donc le DPE n'est plus une question, hein. l'équiper. Vous avez toutes les technologies dernier cri qu'on peut imaginer.
C'est le bien sans défaut, quoi.
C'est le bien.
Et pardon, excusez-moi, c'est quoi le genre défaut. De technologie dont on peut rêver?
Mais si, par exemple, vous avez envie d'avoir votre télé incrustée dans le miroir de la salle de bain, on va vous faire ça. Si vous voulez des portes qui s'ouvrent quand vous voulez juste rentrer dans la cuisine et que par hasard vous avez les mains chargées, elles s'ouvrent toutes seules. Enfin, on peut tout imaginer. C'est surtout un travail d'aménagement puisque ça correspond un peu à habiter un palace, c'est-à-dire vous reprenez en gros les codes de l'hôtellerie de luxe, chambre en suite avec une grande salle de bain, dressing,
c'est
etc.
C'est ça qui fait un petit peu de monde dans 700 mètres carrés, quoi.
Il faut des choses. En l'occurrence, ce bien qui a été acheté par des acquéreurs chinois, vous avez 600, à peu près 600 mètres carrés de plein pied, ce qui est très très rare dans Paris. Vous avez une vue évidemment Tour Eiffel.
Évidemment.
Mais oui, vous avez plus de 5 mètres de hauteur sous plafond. Enfin,
c'est intéressant ce que vous dites parce que 669 mètres carrés de plein pied, ça veut dire que c'est probablement un bien qui s'est emprunté, j'allais dire, sur plusieurs immeubles. Enfin, mais je comprends même pas comment c'est possible.
Mais en fait, alors après, il y a un système de mezzanine, donc j'ai plus la surface exacte de plein pied, mais elle est comme vous avez 5,50 m de hauteur sous plafond, vous pouvez créer des petits aménagements supplémentaires.
Petite hauteur sous plafond.
Voilà. Mais toujours est-il que ces biens clés en main, ils sont extrêmement rares et extrêmement demandés parce que les emplacements sont rarissimes. Et donc, vous avez effectivement juste quelques immeubles qui sont disponibles. Vous avez forcément une vue sur quelque chose de très parisien. Donc, en l'occurrence, c'est la Tour Eiffel quand vous êtes au Champ de Mars. Mais vous pouvez avoir, quand on voit la vente de l'appartement de la Gerfeld aux enchères il y a quelques semaines, 10 millions d'euros parce que vous avez une vue Louvre et Seine. Vous êtes sur les quais. Bon, mais ça, c'est unique. Vous aimez l'appartement ou pas, entre guillemets, la décoration qui restait des aménagements de Karl Lagerfeld. Mais cette vue-là, personne ne l'a.
Mais du coup, qui l'a acheté, Virginie? Parce que
je sais pas.
On se doute que c'est peut-être Olivier, mais.
Non. Il n'y a pas grand monde qui veut
ça. Non, je n'ai pas encore réussi à savoir, mais on finira bien par le savoir.
35
mais
millions d'euros.
Là, ce bien, c'est son. Il faut voir que Paris ou la Côte d'Azur conserve toute leur attractivité en termes de trophy asset, c'est cette volonté d'avoir des biens exceptionnels. Et donc, tout est exceptionnel. L'aménagement, les services associés, etc. Décoration, meubles, tout ce que vous voulez. Il y avait le piano inclus dedans.
Évidemment.
Normal.
J'imagine. Un appartement de 669 mètres carrés vendu sur le Champ de Mars, en plein cœur du 7e, en face de la Tour Eiffel, donc centre de Paris. Ça fait du 50-52 000 du mètre carré.
C'est ça.
Et bon calcul
en maths, vraiment.
Mais oui, je suis journaliste économique.
Vous aussi, Marie.
Oui, mais alors moi, cet immobilier de luxe, très sérieusement, nous en reparlerons lundi. Marie, on sera avec la maison Sotheby's.
Exactement, avec Alexander Kraft, et on pourra faire un petit point sur ce marché, effectivement, qui résiste mieux que les autres, mais effectivement, qui quand même subit lui aussi la crise.
Oui, et à l'image du secteur du luxe en bourse, il y a plusieurs immobiliers de luxe.
Oui,
il y a le luxe,
il y a le mini luxe,
c'est ça. La différence, peut-être la barre autour de 1,5 million, notamment sur le marché parisien. Merci à tous les trois. Merci à notre consoeur Virginie de Challenge. Merci à vous, Marie Cœur de Roy. Et merci à Olivier et l'équipe de FNAIM Grand Paris pour cet éclairage à retrouver en podcast et en replay, comme l'ensemble de nos séquences immobilières sur l'application et le site BFM Business. Il nous reste quelques minutes d'émission en ce vendredi pour aborder le sujet des matières premières. Vous savez, on parlera du pétrole, du cuivre, mais aussi de l'argent, ces métaux essentiels pour le cuivre et l'argent à la transition énergétique et qui flambe. À tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business.
Et le point sur les matières premières pour finir cette semaine avec Benjamin Louvet. Bonjour Benjamin.
Ça commence.
Oui, ça commence. Bonjour Benjamin.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes le directeur des gestions matières premières chez OFI Invest AM avec nous sur un magnifique fonds. Merci de nous rejoindre pour faire le point sur cette semaine complexe. On va zoomer sur quelques matières premières avec vous. On va parler pétrole, on va parler cuivre, on va parler argent. En sous-jacent, on parlera de transition énergétique. Démarrons avec le pétrole, si vous voulez bien, Benjamin. Que retenir de la semaine avec pour l'or noir?
On a, Lorraine, sur l'or noir, une situation un peu stable, de façon surprenante, parce qu'effectivement, avec tout ce qui se passe au niveau géopolitique, on aurait pu s'attendre, beaucoup de gens s'attendaient à une flambée des cours du pétrole, mais on est dans une situation un peu particulière aujourd'hui. La première raison de cette relative stabilité, c'est qu'en réalité, avec les banques centrales qui ont décidé de prendre un petit peu de temps pour ajuster leur politique monétaire, on a une certaine incertitude sur le comportement économique à venir dans la deuxième partie de l'année et donc sur l'évolution de la consommation pétrolière. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour l'instant, même si on a eu un certain stress d'un point de vue géopolitique, on a réussi à contenir la situation, à éviter un embrasement. Mmh. Mais surtout, la troisième chose, Lorraine, qui rend le marché relativement confortable aujourd'hui, c'est que on a des pays de l'OPEP et des pays alignés avec l'OPEP, ce qu'on appelle l'OPEP+, qui ont décidé d'une réduction de leur production depuis maintenant la fin de l'année 2022, de au total un peu plus de 3 millions de barils par jour. Et donc, si on devait avoir à un moment un manque de pétrole à court terme, on sait que l'Arabie Saoudite et les pays de l'OPEP et les pays alignés avec l'OPEP, et notamment la Russie, pourraient remettre du pétrole sur le marché et donc assurer un flux continu de pétrole. Ça rassure suffisamment les marchés pour que le prix du pétrole se stabilise. Et aujourd'hui, nous, chez OFI Invest Asset Management, on ne voit pas le prix du pétrole sortir à court terme d'une fourchette comprise entre 85 et 95 dollars le baril.
Ouais.
Fourchette dans laquelle on évolue maintenant depuis un certain temps.
Ouais, le Brent est, alors on se parle autour de 88 dollars. Le WTI est autour de 83. On le voit, ces cours du pétrole qui restent, si je peux me permettre ce terme, Benjamin, abordables. Hein. Mais ça questionne quand même quand on voit la production américaine qui a énormément progressé depuis un an, au-delà des 13 millions de barils par jour et des stocks qui continuent de diminuer. Une projection pour nous, Européens, qu'est-ce qu'on peut... Pardon d'être binaire, est-ce qu'on peut être rassuré ou il faut être inquiet?
Alors, la production pétrolière américaine a progressé effectivement assez fortement dans la reprise post-Covid. Aujourd'hui, on arrive à un moment où même l'Agence américaine de l'énergie ne s'attend pas à une progression faramineuse de la production de pétrole aux États-Unis. On attend une relative stabilité, ce qui est particulièrement problématique, enfin pas problématique à court terme, mais qui pose question pour le moyen terme, parce que je vous rappelle que d'après l'Agence internationale à l'énergie, le pic de production sur le pétrole conventionnel a été dépassé en 2008. Donc depuis 2008, ça veut dire qu'on tient notre hausse de consommation grâce au développement des pétroles non conventionnels et notamment du pétrole de schiste américain principalement. Si ce pétrole arrive un peu à son maximum, eh bien, on va commencer à se retrouver dans une situation où on a sacrément intérêt à accélérer la transition énergétique, parce que sinon, on va se retrouver dans une situation où on aura une hausse de la consommation et plus de moyens d'augmenter notre production. Et là, on pourrait voir les prix du pétrole beaucoup monté, donc il y a vraiment urgence à accélérer sur notre transition énergétique.
Mais oui, parce que la bonne dynamique manufacturière est un des facteurs qui explique évidemment la poussée de l'or. On va pas débattre sur est-ce que Total Energy devrait aller se coter à New York plutôt que Paris, mais vous avez peut-être vu un article de Bloomberg qui est sorti ce matin, dans lequel Patrick Pouyanné dit réfléchir à une cotation plutôt à New York plutôt qu'en France, parce que justement, à New York, on est un peu moins obsédé par la transition énergétique. Visiblement, je reprends ses propos un petit peu paraphrasés d'un article de Bloomberg paru ce matin. Justement, cette transition énergétique sur laquelle on essaye d'accélérer en Europe, elle se fait aussi avec d'autres matières premières dont le prix flambe. On va s'arrêter avec vous pendant quelques minutes sur le cuivre. Le cuivre, on est autour de 9 800 $ la tonne, c'est correct ?
On est même un peu plus haut que ça ce matin, Lorraine. On a dépassé les 10 000 dollars la tonne ce matin. Et là, on tourne autour des 10 000. Donc, il y a une forte poussée du prix du cuivre, effectivement, ces dernières semaines.
En préparant cette séquence avec vous, Benjamin, on évoquait une patronne de BlackRock, l'équipe, on va dire, en charge des matières premières, des métaux premiers, qui envisageait une tonne à 12 000 dollars. Ce serait un bond de 20% par rapport au sommet de cette semaine, parce qu'il faudrait pouvoir encourager les investissements à grande échelle dans cette mine. Le problème, c'est d'un côté la demande et de l'autre les infrastructures, les investissements qui n'ont pas forcément été fait pour répondre à cette demande ?
Bien sûr. L'exemple du cuivre est très parlant, Lorraine. Okay. L'Agence internationale à l'énergie, donc, qui est l'organisme qui conseille les pays de l'OCDE dans leur politique énergétique, évoquait dans un rapport il y a peu de temps le fait qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a à peu près 250 mines de cuivre opérationnelles. Et si vous prenez la taille moyenne de ces 250 mines de cuivre, l'Agence internationale à l'énergie estime que pour réaliser la transition énergétique, il faudrait rajouter 80 mines de cuivre supplémentaires. Le problème, Lorraine, c'est que dans le domaine des matières premières, eh bien, entre le moment où vous décidez d'ouvrir une mine et le moment où cette mine est opérationnelle, en moyenne, dans le monde, il se passe 17 ans. C'est ce que dit l'Agence internationale à l'énergie. Donc, les ajustements ne se font pas facilement. Donc, en gros, l'Agence internationale à l'énergie dit, si on veut être en temps et en heure avec la bonne production de cuivre pour faire face à la transition énergétique, il faudrait que ces 80 mines de cuivre soient sanctionnées par une décision d'investissement avant 2025. Problème, Lorraine, aujourd'hui, il y a moins de 10 projets sérieux de mines de cuivre qui sont à l'étude dans le monde. Donc, ça veut dire qu'on va se retrouver effectivement avec probablement un moment où on n'aura pas assez d'offres pour répondre à la demande générée par cette transition énergétique. Or, c'est pas possible. Vous pouvez pas consommer un métal que vous n'avez pas. Donc, il va falloir inciter les producteurs à produire davantage. C'est là que cette analyse de chez BlackRock parle de 12 000 dollars la tonne comme prix minimum pour inciter les compagnies minières à réinvestir. Certains, comme Robert Friedland, le patron d'Ivanhoe and Mining, un des plus grands du secteur du minier cuprifère, évoque un prix nécessaire de 15 000 dollars la tonne. Et d'autres analystes, comme Citi, évoquent le prix de 15 000 dollars la tonne dans un futur assez court de 18 à 24 mois. Donc on est clairement sur un métal rouge chauffé à blanc.
De 10 mines en opération à 80 mines, l'objectif quasiment irréaliste. Le cuivre nous amène à toucher un mot d'argent pour conclure, Benjamin. L'argent et le cuivre qui sont des métaux essentiels des voitures électriques et des panneaux solaires. Industrie inexistante il y a encore 15 ans. Aujourd'hui, c'est 35% de la consommation de ces métaux. Racontez-nous ce que fait l'argent et pourquoi ça nous concerne ultimement, nous, en tant qu'investisseurs particuliers.
Bah, l'argent, vous le disiez, Lorraine, c'est le métal qui conduit le mieux l'électricité au monde. Et donc, pour cette raison-là, on l'utilise dans plein d'utilisations industrielles et notamment dans les technologies bas carbone pour la transition énergétique. Donc, on l'utilise dans les voitures électriques, on l'utilise également dans les panneaux solaires. Et même s'il en faut une toute petite quantité, eh bien, vu la quantité de panneaux solaires qu'on installe, vu le nombre de voitures électriques qu'on doit produire, eh bien, vous le disiez, on est passé de 0% de consommation pour ces deux secteurs il y a 15 ans à quasi un peu plus d'un tiers que prévu pour cette année 2024. Donc, et ça va continuer. Pourquoi ? Parce que les panneaux solaires qu'on a installés cette année, on en a installé à peu près la moitié de ce qu'il faudrait installer chaque année si on veut respecter l'accord de Paris. Et il faudrait multiplier par 6 les ventes de voitures électriques si on veut respecter respecter cet accord de Paris. Donc ça veut dire que cette demande d'argent, elle va continuer à augmenter. Et c'est pareil pour le cuivre. Il faut entre 950 kg et 5 tonnes de cuivre dans une éolienne. Il faut 4 fois plus de cuivre dans une voiture électrique que dans une voiture thermique. Donc on sait que ça va entraîner une demande et probablement une tendance haussière très long terme sur ces métaux. Et donc il y a peut-être là un moyen pour les investisseurs de jouer la thématique de la transition énergétique autrement. Alors on ne finance pas la transition énergétique, mais si la transition énergétique est un succès, le prix de ces métaux devrait s'apprécier. Et en tant qu'investisseur, eh bien, il y a peut-être aujourd'hui une bonne opportunité d'en profiter.
Voilà, en tant qu'investisseur, s'engager aussi dans cette transition à travers ces matières premières. Merci beaucoup Benjamin Louvet de l'équipe d'OFI Invest AM, directeur des gestions de matières premières, avec nous dans Tout pour Investir. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur l'application et le site BFM Business. C'est la fin de l'émission. Merci à toute l'équipe pour sa préparation. Merci à vous toutes et tous pour vos messages. Nous serons là dès lundi au rendez-vous à 10h. Nous parlerons crowdfunding. Le crowdfunding, en fait, c'est 10 ans. Ce que ça signifie pour nous en tant qu'investisseurs particuliers. Réponse lundi. On fera également le point sur l'immobilier de prestige avec l'équipe Sotheby's International. L'immobilier de prestige qui ne connaît pas la crise. Au programme de la journée sur BFM Business, vous retrouverez Marc Fiorentino et toute l'équipe de C'est Votre Argent dès 20h pour un nouvel épisode, mais aussi à n'importe quelle heure du jour et la nuit en podcast. Et avant ça, d'ici quoi, 4 minutes, Sofiane Aklouf prend les manettes de Avec vous. Quel est le programme, chère Sofiane ?
Bonjour Lorraine. Eh bien, au programme, imaginez, Lorraine, que vous preniez un nouveau poste lundi, vous changez de crèmerie. Comment bien vous faire accepter par vos nouveaux collaborateurs ? Si jamais vous avez une nouvelle équipe à manager, eh bien, tous les conseils de nos experts pour se faire bien accepter dans votre boîte, dans un instant, dans Avec vous.
On parle intégration au bureau dans Avec vous. Vous avez des questions, l'adresse est avecvous@bfmbusiness.fr. N'hésitez pas, nous sommes connectés, notamment sur les réseaux sociaux, pour ce live, la libre antenne de l'économie. C'est tout de suite sur BFM Business. Bonne écoute.
Tout pour investir sur BFM Business.